dans Pause to Pause, le podcast où on papote animation. Je suis Antoine et je suis accompagné de Léna.
Salut.
D'Alex.
Hello.
Et d'un invité exceptionnel, Benjamin Renner. Bienvenue.
Hello.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Je vais trouver un petit truc original. Youpi.
Tout d'un coup, je ne savais pas quoi faire.
Bah, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Mais avec plaisir, écoute.
Bon.
Là.
Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, donc, tu es le co-réalisateur de Ernest et Célestine, le premier film, du Grand Méchant Renard et autres contes, et de dernièrement Migration. Et tu es aussi dessinateur de BD, avec, donc tu as eu un blog BD où tu as publié Un bébé à livrer et Le Grand Méchant Renard, qui ont après été publiés respectivement chez Vraoum et chez Delcourt. Voilà, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette présentation?
C'est ça. C'est Le bébé à livrer qui était... Ouais, c'était bien chez Vraoum et puis Le Grand Méchant Renard. Oui, j'en ai fait que deux, donc voilà.
Bonsoir.
Déjà pas mal, hein.
C'est pas mal, déjà. Bon, j'ai dit l'essentiel, mais après, effectivement, t'as aussi travaillé peut-être dans d'autres postes d'animation, etc. Mais après, c'était un peu plus dans le détail, donc...
Assez peu, ouais, j'ai juste travaillé sur un autre film, sur la migration justement, un film qui s'appelait Gus, Petit oiseau au grand voyage, et puis j'ai fait un peu de board sur Avril et le monde truqué.
Ah, ok, et, trop bien.
J'ai bossé un petit peu sur La Tortue Rouge aussi, j'ai pas eu une influence énorme parce que je pense que je faisais du storyboard dessus et Michael Ludoc de Witt a vachement repris la main sur l'ensemble de son film, il a beaucoup réécrit derrière, Donc ouais, j'ai pas beaucoup eu l'opportunité de bosser pour d'autres prods, ce qui est un peu un regret pour moi, mais ouais.
T'es directement passé à la réalisation en sortant
de l'école? J'avais commencé en bossant sur Gus, Petit Oiseau, je faisais des recherches graphiques sur le projet, et puis j'avais animé sur une série qui s'appelait Le Chat Frankenstein, je crois, ou un truc comme ça, c'est très chouette, hein, que des trop mignons, mais je sais pas si ça a pas marqué l'histoire de l'animation.
Parce que j'ai vu aussi que tu avais animé sur le court métrage Bang Bang aussi de Julien Bizarro.
Ouais, de Bang Bang de Julien Bizarro. Ouais. Je sais pas ça, si je veux dire Bang Bang ou.
Oui, moi je vais prononcer comme Nancy Sinatra vraiment.
Ouais, non, mais c'est bien, c'est peut-être c'est un Bang Bang. Ouais, non.
Bang Bang.
Ouais, c'était une très belle équipe, hein. Il y avait presque que des réals qui étaient dessus. Il y avait Patrick Imbert qui animait dessus. Il y avait Elia Gobé-Mévelec, réalisatrice de Hirondelle de Kaboul. Patrick Imbert, c'est le réalisateur du Sommet des Dieux.
Oui,
Nils Robin, qui est un animateur, un immense chef animateur.
C'est vrai qu'il y avait ça.
Aussi, bref, c'était un monde incroyable.
La Dream Team, quoi.
Après, le projet était très très exigeant et j'avoue qu'on a même du mal à suivre parce que Julien Bizarro, c'est un animateur de génie et c'était pas évident pour nous malgré tout. Malgré l'Avengers de l'animation qui était réuni, je m'inclus pas dedans. Hein. Moi, j'étais le Hawkeye, tu sais, le plus nul là, des Avengers. Mais ouais, non, c'était assez chouette. C'était une belle expérience. En tout cas, c'était un très joli film et d'ailleurs, il continuait à prouver qu'il est un grand réel, ce mec, avec ses projets. Ouais.
Avec ses projets, ouais. C'est un court-métrage qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui et qui a encore maintenant, je trouve, marqué un peu le paysage de l'animation, j'ai l'impression, malgré que ce soit qu'un court-métrage, finalement, en fait.
Ouais. Je pense que c'est surtout Choum, son film d'après, qui a vraiment marqué les esprits.
Choum, ouais, magnifique.
C'est vrai que Bang Bang, il était peut-être un petit peu plus adulte, un peu moins grand public, donc Choum, je pense qu'en plus, il avait quelque chose de presque plus fort, quoi, ouais.
C'est intéressant parce que, enfin, moi en tout cas, à l'école, on nous l'a passé dans plusieurs cours différents. En fait, il y a quand même un truc où c'est très confidentiel, le court-métrage, parce que généralement, ce sont des films qui sont visionnés que en festival ou des choses comme ça, qui ont des vies que en festival, et ensuite sur Vimeo quand on se met à creuser. En fait, Bang Bang, lui, a eu, ou Bang Bang, pardon.
Non, t'inquiète.
Faut qu'on se décide, hein. Faut trouver.
Bang Bang.
Bang Bang, on est en France.
Bang Bang,
lui, a eu une vie hors des festivals et hors de plateformes, et Choum aussi, évidemment, donc du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est très singulier comme vie de court-métrage.
Complètement.
Ouais.
Clairement. Peut-être pour revenir plutôt à ce que tu as pu faire, en tout cas, là, il y a Migration qui est sorti en fin d'année de 2023, avec tout un panel de sorties de fin d'année. Il y a eu 1 milliard de films en décembre. Et
Ouais.
donc, Migration, il me semble que tu as co-réalisé de ce que j'ai pu voir. Je ne sais pas si c'est selon les informations, ce n'était pas forcément la même. J'ai pas même eu les mêmes échos, mais j'ai vu que c'était co-réalisé avec Guillaume Homsy. Ou est-ce que
Oui,
c'était... Ouais,
ouais.
c'est ça. Ok.
Oui, c'est. Alors en fait, oui, c'est-à-dire que tous les films à Illumination sont co-réalisés, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais
Ok.
un réalisateur. Après, il y a toujours un réalisateur, on va dire, principal. Enfin, moi, par exemple, je suis arrivé en 2018 sur le projet, Guillaume m'a rejoint en 2020.
Ouais.
Donc, j'étais déjà depuis 2 ans sur le film, et c'était. Et en fait, il vient un petit peu en renfort. Mais il a un rôle de réalisateur, mais c'est vrai que c'est plus à moi que s'adresse le producteur quand il s'agit de parler de choix artistiques profonds ou même de narratif, quoi, de choses comme ça. Guillot, c'était plus un interlocuteur qui m'aidait plus à parler à l'ensemble du reste de l'équipe, quoi. C'est-à-dire que, sachant qu'à Illumination, le producteur, donc, qui est Chris Meledandri, c'est le fondateur du studio. C'est un producteur qui a beaucoup d'expérience, hein. Il a créé beaucoup de franchises qui ont beaucoup de succès, comme L'Âge de glace. Il a produit Les Simpsons aussi, le film, le long métrage Les
Non,
Simpsons.
trop
Il
bien.
avait produit Rasta Rocket, vous vous rappelez de ça, mais.
Oui.
Pardon, peut-être trop.
Je vois. Incroyable.
Bon, après, je ne cite même pas Moi, moche et méchant, des choses comme ça. Enfin, bon,
Oui,
c'est
bien sûr.
un gros, gros producteur. Et c'est un producteur qui est très, très intrusif dans l'artistique et dans le narratif. C'est-à-dire qu'il est à la limite d'être le réalisateur du film,
Ok.
dans le sens où c'est vraiment lui qui lit toutes les pages du scénario, qui commande. Comment faut, enfin, qui dirige un petit peu les intentions, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il a un interlocuteur qui est moi en tant que réalisateur. Évidemment, il parle à Guillaume aussi, mais peut-être plus sur des questions un peu plus de mise en scène, tu vois, de comment on place la caméra, des choses comme ça. Parce que Guillaume Homsy, c'est un cinématographe, en fait. C'est-à-dire que c'est le mec, il s'occupe du layout surtout. Il s'est occupé de toutes les caméras de Sing et Sing 2 et d'autres
Ok.
films, hein, mais. Et donc, en gros, c'est lui qui place la caméra dans les trucs. Il est vraiment expert là-dedans. Et
Ok.
moi, c'est surtout là-dessus qu'il m'a aidé, évidemment, sur plein d'autres choses, sur le narratif. Il me donnait plein de conseils ou des idées. Mais voilà. Donc, il y a souvent un
Ok.
réalisateur un peu principal. Sur Sting, c'était Garth Jennings, par exemple, tu vois, qui était le
Oui.
réalisateur anglais. Ses co-réalisateurs étaient un petit peu moins. Et c'est le cas sur tous les films, quoi.
Ok, et du coup, qui arrive à peu près 1 ou à 2 ans après, tout le temps, c'est ce même timing pour
Franchement,
relire
c'est
ou.
non, c'est très varié. C'est assez. En fait, Illumination, c'est une boîte qui veut faire monter ses techniciens en réalisateurs.
D'accord.
Donc, souvent, par exemple, si t'as un réalisateur qui est pas très calé en animation, on va dire, bah, ils vont faire monter un chef animateur co-réalisateur qui pourra comme
Ah, ok.
ça,
Ouais.
tu vois, l'aider à, tu vois, je sais pas comment dire,
Ouais, qui a l'œil en fait finalement et qui apporte une
Ouais, et
expertise.
qui il l'aidera à diriger l'équipe d'animation là où peut-être le réalisateur sera un petit peu plus maladroit là-dessus, quoi. Tu vois, et enfin voilà, après c'est très vague. Enfin, moi par exemple, l'animation c'est un truc qui me touche beaucoup. Donc Guillot était présent au round d'animation, mais c'était vraiment moi qui dirigeais l'équipe. Par contre, en ce qui concerne le layout, donc les placements de caméra, j'étais peut-être un petit peu plus recul, tu vois, en recul, et c'est là que Guillot qui prenait parole et qui proposait des idées,
Ouais,
des choses, quoi.
c'est intéressant de voir cet aspect-là, cette distinction.
Ouais.
Mais du coup, est-ce que
Ouais.
c'est pas aussi un peu frustrant d'avoir un producteur qui est autant intrusif, effectivement, dans l'artistique aussi
Bah, c'est frustrant, oui, non, parce que quand tu vas, tu sais que tu vas avec cette logique-là.
Oui,
C'est-à-dire que
ouais.
quand tu vas bosser pour un studio hollywoodien, je savais que j'étais pas François Truffaut qui débarque à la Warner. Tu vois, enfin, c'est pas, c'est des exemples comme ça. Enfin, il y a quelques exemples, tu vois, dans l'histoire de Réal à qui on a donné carte blanche, mais c'est des cas très particuliers, des grands studios qui donnent carte blanche à des Réals. Et d'ailleurs, moi, j'avais vu L'Enfer de Clouseau et je trouve ça presque effrayant, tu vois, quand. Je sais pas si vous avez vu ce documentaire qui est excellent où on voit Clouseau à qui on donne carte blanche sur son sur son long métrage, que je crois que c'est la Warner qui lui propose ça. Et le mec pète les plombs, en fait. Il n'arrive pas à finir son film et ça devient une espèce
Ouais.
de puits sans fond de refaire les choses et tout ça. Moi, j'ai
Ouais,
très peur de ça.
un peu une Richard Williams finalement sur
Ouais, j'y
le
pensais.
voleur et le cordonnier quoi.
Ouais,
Ah, je
ça.
savais pas
Il
que
met
c'est ça
trop.
qui s'était passé. Ouais, moi,
Bah,
je pensais que c'était.
il met 30 ans à faire son film parce que
Il a ruiné des boîtes.
Trop perfectionniste, quoi.
il dilapide l'argent parce qu'il fait tout refaire continuellement et en
Ah
plus
oui,
avec
ouais.
des animes qui sont enfin
C'est vrai que ça
c'est
apporte
un
un
truc de
cadre quand
malade.
même aussi d'avoir d'être, de
Oui,
ne
c'est
pas être
ça,
tout seul
complètement.
à la réalisation et d'être full budget.
Oui. Oui, c'est ça. Et puis en
Ouais,
fait,
ouais, ouais.
c'est aussi le rôle d'un producteur de cadrer et de donner aussi un cahier des charges, je suppose.
Ouais.
Du coup.
C'est marrant parce que j'avais parlé, alors j'espère pas lui faire dire une fausse citation, mais quand je bossais avec Michael du Doc de Vite, justement, moi j'étais en train de travailler sur Ernest et Célestine, et il y avait une petite pause parce qu'on était en recherche de budget, donc je travaillais pour Michael au storyboard, et il me disait, toi t'as de la chance parce que tu t'adaptes un truc, tu vois, c'était un peu un film de commande en fait, Ernest et Célestine, puis c'était un
Ok.
producteur qui voulait réaliser ce film, enfin créer ce film. Et du coup, il disait, t'as de la chance, t'as un scénario, t'as un truc. Moi, j'ai rien. C'est que moi, en fait.
Ouais.
C'est mon histoire, c'est
Carte,
mon
ouais.
graphisme,
Pas
c'est
du
tout
reste.
moi. Et c'est ultra flippant. Enfin, il était presque perdu, en fait, du fait que c'était le studio de Ghibli, en fait, qu'il était allé le
Ouais.
voir pour
Oui.
lui dire, bah, t'as carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et il pouvait pas dire non, mais c'était effrayant pour lui. Alors, oh, peut-être que je déforme un peu ses propos ou la manière dont je l'avais
Ouais, mais.
interprété, en tout cas, mais c'était ce qui ressortait de ce qu'il disait, quoi.
Ouais, bah, je
Non, là,
comprends, hein, parce que.
ça me semble assez logique, ouais. Enfin, en fait, je sais pas, nous, on est des techniciens, donc en fait, c'est vraiment un truc où c'est bien d'avoir un cadre, enfin, je pense. Et donc, l'idée d'être jeté comme ça, genre, tiens, fais un film, c'est ouf!
Ouais, oui. Mais en
Oh
fait, à
mon
partir
Dieu!
des contraintes, c'est aussi là où tu peux créer et tu peux faire ressortir des choses qui sont intéressantes. Effectivement, tu parlais d'Ernest et Célestine. Il y a quelque chose où c'est du coup aussi. Enfin, je sais pas comment s'est passée la production de Migration et celle d'Ernest et Célestine, par exemple, en comparaison, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes. C'est Ernest et Célestine, c'est de la 2D, aspect un peu aquarelle, dessin, animation traditionnelle, et Migration qui est un film en 3D, gros studio Illumination avec des Américains aussi dans le lot. Donc j'imagine pas mal de différences. Et puis, alors, peut-être pour poser une question assez. Parce que là, ça il n'y a pas de question. Mais Ernest et Célestine, j'ai lu que tu n'étais pas arrivé. Enfin, tu étais sur le projet en tant que directeur artistique et tu as intégré l'équipe de réalisation plus tard. C'est le cas ou pas? Ouais, c'est ça?
Oui, on avait commencé le projet. Quand j'étais arrivé sur le projet, c'était Arthur Depince qui avait été nommé réalisateur du
D'accord.
film,
Ok.
qui travaillait dessus. Et du coup, moi, je l'avais rejoint en mode. En fait, moi, je connaissais pas les livres et c'est Didier Brunner qui m'avait contacté. Il avait vu. Il m'avait été. Enfin, on m'avait conseillé à lui parce que j'avais fait un petit court-métrage avec une souris. Donc, on lui a dit, bah tiens, peut-être que
Oui.
lui pourrait.
Ouais.
Et
Il est
oui,
si bien ce court-métrage avec le
un
rire.
petit film que j'avais beaucoup aimé faire, j'aimerais bien en
Ouais.
refaire des petits trucs comme ça. Et du coup, j'étais arrivé sur le projet en mode, mais voilà, je vais faire de l'anime, tu vois. Enfin, j'étais tombé amoureux des livres
Ouais,
en les
c'est beau.
découvrant et j'adorais les animés en fait. Donc, je
Ouais.
commençais à animer juste, tu vois, je prenais une illustration, je la recopiais, puis je l'animais sur Flash. Le producteur était ravi. Et moi, j'aidais donc Arthur à essayer de concrétiser le film. Arthur s'est vite rendu compte que, en fait, lui, il espérait changer le. Enfin, il espérait faire Ernest et Célestine à sa sauce, quoi, tu vois, donc de le modifier
Ah,
avec son style
ouais.
graphique et tout ça.
Oui,
Il s'est rendu compte
difficile.
que c'était pas trop l'intention du producteur, donc il a dit, bah écoute, je m'en vais. Et
Je le
je me suis retrouvé
rappelle,
tout seul sur le projet.
Arthur de Pince, c'est le réalisateur de
Ouais,
Zombie
excuse-moi.
Millennium et
Ouais,
il a fait
exactement.
beaucoup de BD, donc toute la saga Zombie Millennium, donc un graphisme qui est très.
Très clair, ouais, très clean, propre. C'est vrai qu'à l'inverse de Ernest Célestine, qui est très brouillon, très organique, en fait,
Oui, puis qu'il y a des traits
c'est Arthur de
lâchés,
Pince
très très
Ouais.
vectoriel comme dessin aussi. Donc c'est
Exactement, ouais, il bosse beaucoup en vectoriel
même
et tout ça. Et
pour
ce
les
qu'il proposait,
couleurs.
c'était super bien, mais c'est vrai que ça n'avait rien à voir avec.
Bah ouais.
Ouais. Et puis c'est difficile de s'éloigner pour Ernest et Célestine si tu t'éloignes graphiquement, c'est ce qui fait
Ouais.
aussi toute la poésie de l'album. Enfin, c'est ce qui a fait aussi
Bah, tu peux,
ces
hein,
gens.
c'est un choix, ça aura certainement fait
Oui,
un
oui,
bon film. C'était pas le choix de Didier Brunner,
oui.
donc voilà, il a décidé de partir plus sur
Ok.
quelque chose d'organique. Moi, ce qui m'allait parfaitement, donc
Ouais.
c'était plus ma cam.
Et pour Migration, du coup, comment tu t'es retrouvé sur le projet? C'est Illumination qui t'ont dit genre viens, viens, on a un projet pour toi avec un scénario, ou est-ce que c'est toi qui avais une envie de faire de la 3D aussi,
Ouais, de changer
de
un
passer à
peu.
autre chose?
Alors, ouais, non, moi, j'avais absolument pas envie de faire la 3D. Enfin, non pas que j'aime pas ça, mais juste, je me dis, bon, je sais pas en faire, donc je vais pas. Enfin,
Ok.
c'est comme te dire, je voulais pas m'improviser, je sais pas, moi, boulanger du jour au lendemain, tu vois, je sais pas
Ouais.
faire de pain, donc je peux pas le
Donc
faire.
c'est ça qui.
Et du coup, Christine et Dandry avaient demandé à ce qu'on se rencontre, et moi, par politesse, j'y étais allé sans trop y croire. Et en fait, le projet qu'il m'a proposé, je le trouvais assez touchant. Notre rencontre, elle a été assez touchante pour moi parce qu'on a vraiment échangé sur des thématiques qui me plaisaient énormément par rapport à ce qui tournait autour du film, hein, de ce que voulait raconter le film, ce qu'on voulait raconter à l'origine. Et du coup, je me disais, bah, je peux peut-être être utile, tu vois, d'une manière narrative, quoi, au projet. Je dis pas que je veux réaliser, mais je
Ouais.
dis, si tu veux, je peux essayer de proposer des idées, de faire des petits boards, des choses comme ça, puis on verra comment ça se passe. Et c'est comme ça qu'on a commencé, quoi.
OK.
Et après, un peu plus tard, donc j'ai commencé à faire des petites recherches de bord, de choses comme ça, que je lui présentais. Il aimait beaucoup et donc il m'a proposé de réaliser. Moi, j'ai dit, bah, écoute, je ne sais pas faire ça. Et il avait un discours très rassurant, tu verras,
OK.
très simple. Enfin, t'as juste à donner des ordres, ça se passera comme ça. Ce n'est pas du tout le cas, mais.
Ouais.
Tu as
Mais
juste à donner
après,
des
c'est pas.
ordres. Ouais,
Les
non,
gens
mais
qui
après, c'est
arrivent,
pas du
c'est
tout.
très simple.
C'est pas du. Ouais, non, mais c'est. Et puis, une fois que t'es dedans, en fait, c'est vrai que l'avantage d'un studio comme Illumination, c'est pas quelque chose que je ferais. En France, par exemple, je ferais pas un film en 3D. Parce que en France, moi, en tant que réal, t'as un budget qui est tellement serré que t'as besoin de. Si tu vois que les choses se passent pas bien, que t'as pas le temps de faire les choses, j'ai besoin d'aller chez moi tranquille le soir et de faire la chose et de dire, bon, allez, c'est fait, maintenant, on avance, quoi.
Ouais,
Enfin,
okay. La
alors
3D,
qu'en
tu peux pas
3D, je sais pas le
intervenir.
faire, en fait. Je
Ouais.
peux pas. Ouais, je peux pas débarquer et mettre. Parce que souvent, ce qui se passe quand on fait un long métrage, c'est que la production va te dire, oui, je sais que tu vas améliorer le film, mais on peut pas parce qu'on n'a plus d'argent, on n'a pas de sous, t'as pas assez de machin, t'as pas assez de trucs. Mais en tant que réal, si t'as la manière, enfin, tu vois, si t'as le talent pour faire les choses, ou en tout cas, t'as après une technique qui te permet de toi-même faire les choses, bah, tu pars un week-end, tu fais le
Ouais,
truc, et tu
complètement.
reviens avec, et tu dis, bah voilà, c'est fait, maintenant on le fait. Et puis donc ton producteur, il fait, oui, bon, bah on le fait, alors viens, parce que tu l'as fait. Mais
Ouais, et puis
et ça en 3D, je ne sais pas le faire, quoi. Donc
ouais.
je serais trop flippé, je serais
Ouais.
constamment frustré de tout, quoi. Donc ça m'en rendrait fou, quoi.
C'est vrai qu'en plus le marché américain en animation est très très centré sur la 3D, alors qu'en France c'est
Ouais.
vrai qu'on peut plus se permettre de faire de la 2D. Là on l'a vu
Ouais.
rien qu'en 2023 il y a eu pas mal de productions en 2D,
Ouais.
et aussi effectivement c'est pas le même budget en 3D. Il y a déjà les logiciels qui coûtent plus cher, et aussi ça fait intervenir d'autres métiers, donc
Ouais.
ça coûte une fortune. Mais
Bah,
voilà.
le truc, c'est qu'en fait, là, après en 3D, on peut faire des petits films avec des budgets
Oui.
restreints. J'ai perdu mon corps qui le prouve. Il y
Oui,
a
c'est vrai.
InWaves là, qui est en production qui va le prouver aussi. Enfin, il y a pas mal de projets comme ça qui se font en 3D, qui ont un rendu, c'est bluffant. Après, je pense que c'est plus le problème, c'est le standard de la 3D, c'est souvent bah, du Pixar, quoi, rendu
Ouais.
réaliste. Tout ça, et ça pour le coup, ça coûte un bras. Enfin, ça coûte des rendus,
Ouais, c'est ça. Ou alors ce
plusieurs
sont
des
des boîtes
plombes.
comme c'est ça, c'est ou alors ce sont des boîtes comme Riot qui financent Arkane et qui ont
Ouais.
du coup genre des budgets complètement illimités
Ouais. Ouais.
pour pouvoir faire des trucs qui en effet sont
Ouais.
super alléchants visuellement et qui donc du coup sortent des standards Pixar, mais ça coûte
Ouais.
très très cher
Ouais.
donc
Ouais.
voilà. Mais
Évidemment.
c'est pas possible de se le permettre. Enfin, en tout cas, en France, avec la manière dont on finance les films, c'est très compliqué.
Non, c'est vraiment le problème. Ouais. Et là, il se trouve qu'Illumination aussi, il y avait un savoir-faire. Donc moi, si tu veux, je débarque dans un studio et voilà, je sais qu'ils savent faire les choses.
Ouais,
Ça roule.
complètement.
Maintenant, c'est. Enfin, tu vois, je viens. C'est l'avantage aussi. C'est rare un studio qui a un savoir-faire en fait en France, parce que là, 90% des productions de long métrage se font et se défont une fois qu'elles sont finies. C'est-à-dire que
Ouais.
tu. T'as un studio qui se crée limite pour faire un long métrage, et une fois qu'il est fini, hop, tout le monde s'en va
Ouais, c'est
et
vrai,
part
c'est vrai.
sur d'autres projets en fait, parce que c'est
Ouais.
l'avantage de l'intermittence, et c'est aussi son inconvénient, c'est que bah, du coup, les studios n'arrivent pas à fidéliser les employés
Ouais.
parce qu'ils n'ont pas assez de projets, et ce qui fait qu'on est obligé de reconstruire à chaque fois
Ouais.
voilà,
Ouais,
tout.
carrément. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu en crise en ce moment. Parce que c'est compliqué de former des projets avec la grève des scénaristes et juste le marché de manière générale. Donc, mais on va se sortir. On va réussir à sortir.
On s'en sort toujours.
Moi, j'allais poser une des questions qu'on avait évoquées, mais donc du coup, c'est un truc où sur Le Grand Méchant Renard et Ernest et Célestine, tu pars avec une base en scénario, un album, une BD que tu as déjà faite, etc. Là, sur Migration, tu pars sur rien du tout. Avec une thématique de base, une note, tu as plus une note d'attention que de l'image et un scénario.
Il y avait un script en fait, hein. Il y avait un script qui avait déjà été écrit par Mike White. Il avait fini. Et donc, il y avait le script, mais encore une fois, si tu veux, je savais que dans une production américaine, tu connaissais un peu Pierre Coffin, donc je savais comment ça se passait. Mmh. En gros, ils ont un script, mais ça change tout le temps. Enfin, ça,
c'est ça.
Le script change constamment, quitte à même ne rien avoir. Et je sais pas si vous avez l'occasion de regarder les... Moi, j'avais le DVD de Monstres et compagnie et de Les Indestructibles de Pixar, et dedans, il y avait... c'était une version collector, je sais pas quoi, cette grande époque. Et dedans, il y avait les scènes coupées, de storyboard coupées, quoi. Ah, et en fait, c'était bluffant de voir d'où ils venaient, par quoi ils étaient passés pour arriver au résultat final. Ouais, et ce qui m'avait bluffé dans Monstres et compagnie, c'est que les rôles étaient inversés à l'origine. C'est-à-dire que c'était Bob, le petit monstre vert, qui était la star de l'entreprise qui faisait peur à tout le monde. Et Sully, le gros poilu bleu, en fait, il était ultra timide et c'était l'assistant de Bob. Et je regardais ça et je me suis dit, ah ouais, ils ont la bâche. Ils permettent de faire des changements, tu vois,
des racistes
comme ça.
À quel moment ça intervient ?
C'est quelque chose que je voulais découvrir un peu comment ça se passe, tu vois, justement, dans un studio hollywoodien. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça se passe comme ça ? Et comment tu réagis, toi, en tant que créateur à ce genre de choses ? C'était presque une expérience. C'est un peu comme faire Koh-Lanta, mais dans l'animation.
Oui, ce que j'ai dit, c'est un peu la crainte aussi, que tu bosses sur quelque chose.
Et du coup, et c'est bien le cas, je vous confirme que ça
pas, c'est Koh-Lanta.
On ne dit pas, et puis ça, finalement, changement de règle, tu vois.
L'épreuve de poteau, elle est dure. Hein.
La main derrière le dos.
Et tu finiras sur l'épreuve des poteaux, c'est exactement ça.
T'as essayé de garder la main sur le storyboard un peu, enfin, t'en as fait beaucoup. Je me souviens qu'à la conférence que tu avais faite à l'école, tu nous avais montré des tests de storyboard où ça bougeait beaucoup. Toi, vu que tu viens en plus du storyboard, enfin, t'as fait beaucoup de storyboard avant, genre, c'est quelque chose où, dans les process d'écriture, ça fait partie aussi de ta méthodologie de travail.
C'est ça, en fait, c'est-à-dire que moi, je suis un réalisateur qui a un peu besoin d'écrire le film. C'est-à-dire que je prends le scénario, mais j'ai besoin. En fait, quand tu prends un script, moi, étant storyboard, j'ai jamais su écrire des dialogues, des lignes, des machins, des trucs. Enfin, je sais pas prendre un traitement de texte comme ça et puis, et puis faire le truc. Je suis très mauvais pour ça, quoi. Ouais. Et du coup, je pensais ne pas être scénariste et je me suis rendu compte, en fait, notamment sur Ernest et Célestine, que le storyboard, c'est une manière d'écrire par le dessin, en fait. J'arrivais à trouver des dialogues, mais uniquement dans le cadre d'un dessin, un peu comme une bande dessinée, en plus.
C'est ton moyen d'expression aussi, hein, c'est pour ça. Hein.
Exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, depuis Ernest et Célestine, mon producteur Didier Brunner avait compris que c'était ma méthodologie. Donc, Le Grand Méchant Renard, je l'avais vraiment bordé de cette manière. Ouais. Même la BD, hein, je l'avais écrit, j'avais pas écrit un texte. Et ensuite, j'avais vraiment fait d'abord toutes les cases, comme si j'avais fait un storyboard. Et j'ai refait pareil pour le film. Et sur Migration, Chris Meandris, c'est quelque chose qu'il a beaucoup apprécié dans ma méthodologie, en fait, ce côté où je débarquais avec des traits decks qui n'ont rien à voir. T'as rien à voir avec le script, mais j'hésitais pas à dire, ayant vu Monstres et compagnie, je me dis, on a le droit de changer, donc on change, tu vois. Enfin, on va changer les trucs et puis on va voir comment ça se passe. Je me suis dit, j'ai voulu provoquer un peu le dragon. Et du coup, je faisais des propositions parfois de trucs qui avaient rien à voir. C'est marrant parce que je me suis un peu fait prendre à mon propre piège, parce qu'à l'origine, il y a une séquence donc, dans Migration où ils vont dans une ferme de canards. Qui était à la base une ferme de canards à foie gras et qui me mettait un peu mal à l'aise parce que j'avais pas trop envie de montrer des canards qui bouffaient dans les vidéos, des trucs comme ça.
Ils sont
heureux, tout ça. Donc j'avais dit, on peut faire une ferme où ils sont trop heureux, c'est le bonheur complet, c'est génial. Et dans cette ferme, il y aura le méchant du film, était dans le film, je spoil un petit peu, mais c'est il y a un canard blanc qui ressemble un peu à un gourou qui s'appelle Gougou. Et c'était censé être le méchant du film, et j'avais vraiment proposé tout le truc avec toute une fin qui tourne autour de ça. Et le producteur, en fait, il a assez tard dans la production, a, Alors, il n'a pas voulu retirer ce méchant-là du film, mais en fait, il a voulu faire du propriétaire du perroquet le grand méchant du film, pour qu'il arrive plus tôt dans le film. Et ce qui fait
D'accord.
qu'il n'y avait plus trop la place pour deux méchants dans le
Ouais.
film, donc j'ai dû sacrifier le Gougou. Mais voilà, donc tu vois, il y a plein de
Ouais.
changements comme ça qui se font. On dit, ah bah lui, c'est le méchant, non, finalement, c'est pas lui. Enfin, même les
C'est
relations entre les personnages ont changé énormément. C'est assez intéressant. Ce qui est perturbant, c'est que ça a lieu pendant l'intégralité de la production du film. C'est-à-dire que tant que le film n'est pas mixé, fini, tout ça, t'es pas à l'abri que le producteur te dise, on a un problème, je vais réinjecter tant de budget sur le film parce qu'il faut refaire complètement cette séquence, parce qu'il s'est
Ah
passé ça, ou parce que même je le sens pas, ou des choses comme ça. Et ça arrive assez régulièrement sur leur projet.
ouais.
Et donc, faut être assez nerveusement un peu accroché, quoi, à te dire, bon, bah, on y retourne, c'est parti.
Ouais. Faut être prêt aussi à
C'est horrible.
refaire des
Ouais,
séquences.
bah, c'est
ouais. Pas rester sur ses
Exactement.
acquis.
Mais c'est drôle ça. Du coup, je me rappelle du film. On peut presque le prendre. On peut voir des traces de ce canard qui devait être méchant dans le sens où moi je l'ai pas senti. Genre tout de suite
Ouais.
on arrive dans cette ambiance de ferme. Et ils font des espèces de yoga bizarres là.
Ouais.
Et je me suis dit oh, moi alors déjà moi ça pue la secte. Et puis surtout
C'est
je me
ça.
dis le grand gourou. Faut se méfier quoi. C'est en général ça
Ça.
peut rapidement être un méchant et il est filmé
Bah.
d'une manière où c'est flou quoi. On se dit ok il a l'air très très gentil mais est-ce
Ouais.
qu'il va y avoir un
Des
contre-coup
louches.
derrière? Et ça aurait pu en vrai du coup.
Ouais.
Bah, c'est le défaut de cette méthodologie. C'est vrai que du coup, en tant que réalisateur, quand tu construis ton film, bah tu dis, ah bah je vais mettre ça en place, machin, tout ça. Et puis derrière, bah on te dit, bah non, finalement, la conclusion, c'est ça. Et toi, tu fais, ah mais ouais, non, mais moi j'avais tout construit pour, bon bah tant pis. Enfin,
Bah après ça fonctionne hein.
malgré comment?
Après ça fonctionne hein. Y a pas
Bah, c'est notre boulot, c'est justement de faire en sorte que ça,
Ouais.
comme, enfin, tu
Oui.
vois, que ça marche à peu près, quoi. C'est là le danger de cette méthodologie, c'est qu'en fait, t'es plus dans une logique de, t'es plus, tu perds un peu parfois la logique créatrice, tu vois, de te dire, je vais vraiment bien faire cette séquence. Au dépend de, enfin, tu es plus dans la logique de bon, bah on va faire en sorte que ça marche, quoi. Enfin, tu vois, que
Ouais.
ça reste cohérent. Et
OK.
c'est là où il y a une limite à cette méthodologie qui est aussi liée au budget des films d'Illumination, parce que malgré le gros budget que c'est, hein, 72 millions d'euros pour un film français, c'est
C'est énorme,
gigantissime. Enfin, je veux dire, pour un budget français, c'est du jamais vu. Enfin, ça, il y a que, enfin, c'est un studio hollywoodien, donc c'est pour ça que c'est aussi gros. Comparé à Wish, par exemple, c'est 200 millions de dollars,
oui,
tu vois,
ouais. Le
le
gâchis.
budget, et ils ont plus de place pour justement rééquilibrer les choses, tu vois, enfin de retravailler les choses. Donc là, nous, on est vraiment dans une fuite en avant, et c'est-à-dire que même des fois, la production te dit, c'est pas grave, on s'en fout, on avance, et
Ok.
toi, t'es là, non, attends, tu vois, t'essaies de rectifier le truc, t'as le producteur qui t'arrache ton board des mains et qui te dit, c'est bon, là, on doit alimenter les équipes derrière pour qu'ils puissent
Bah
avancer.
oui, ouais.
Donc tu es toujours dans une espèce d'urgence de dire, ah, tu sais, et puis les équipes derrière qui disent, mais attends, mais c'est plus cohérent. Et tu fais, je sais, mais alors attends, on va trouver une solution, non, on va chercher, on va.
Ça doit
Donc
être assez
c'est
stressant,
l'espèce
ouais.
de course de fond, ouais, qui est pas. T'es un peu. Au bout d'un moment, tu deviens le gardien de la cohérence du film, quoi. Et
Ouais,
tu perds
c'est
un peu
ça.
le côté créateur, tu vois. Après, ce qui est chouette, c'est que des fois, tu te dis. Non, mais on va jamais trouver une solution, justement, parce qu'on peut pas changer ça comme ça, juste en claquant des doigts. Et te rendre compte que, bah, en fait, si, il y a une solution. Et c'est assez étonnant de te dire à chaque fois, dans des moments où t'es. Alors, faut le vivre, hein, parce que là, quand je vous le dis comme ça paraît. Surtout quand tu vois le film fini, tu dis, bah, c'était évident, il fallait juste faire comme ça. Mais quand t'es
Et ça a l'air
dedans et que t'es
facile.
parti sur une voie et te dire, faut reculer et partir par là, c'est vraiment, faut réfléchir à tout. Enfin, c'est pas évident, quoi.
Il n'y a pas des trucs où, à un moment donné, tu t'attaches à des idées, tu t'attaches
J'imagine.
à des formes, enfin, à des jeux de narration que tu t'as mis en place, et en fait, on te demande de tout reculer. Donc, du coup, tu es obligé de faire le travail de OK, bon, ça, il faut que j'abandonne.
Ouais.
Et pour pouvoir essayer de enfin, proposer autre chose, etc. Enfin, genre,
Bah,
c'est pas.
si, puisque après, avec le recul que j'ai maintenant sur le film, si tu veux, je me rends compte que c'est malheureusement un film qui est assez générique, et c'était un peu mon plus gros regret, parce que je pense qu'il y avait vraiment un ton dans l'ensemble du film qui était un petit peu plus acide, on va dire, que j'aimais beaucoup et que le producteur aimait énormément,
ouais.
et qu'il a choisi lui-même d'atténuer, d'être un petit peu moins, parce que la crise Covid l'a vachement marqué et il voulait moins d'ironie, tu vois, moins de
okay.
un héros notamment un peu plus sympathique.
Okay.
Et pendant, il y a l'exemple que j'ai dans le film, c'est que dans le film, à peu près vers le milieu du film, il rencontre un perroquet. Qui est un espèce de super-héros. Moi, je le décrivais comme Indiana Jones joué par Freddie Mercury. Donc, tu vois, un espèce de personnage ultra flamboyant, qui est très, très, très fort. Et en fait, ce qui était génial dans ce personnage, c'est que, et ça, c'était écrit dans le scénario de base, c'est qu'en fait, Mac, le père de famille, qui était un père protecteur qui a peur de partir à l'aventure, tout ça. Il rencontre ce mec qui, lui, est vraiment l'aventurier, qui a peur de rien, qui est ultra fort et tout ça. Et en fait, Mac en était super jaloux parce que toute sa famille était ultra fan de ce gars, ultra admiratif, et lui, il était ultra jaloux. Donc, il surcompensait son côté aventurier, alors qu'il n'était pas du tout fait pour ça, tu vois. Il essayait d'être aventurier. Et ils étaient tout le temps en train de... Enfin, il était un peu jaloux de lui, et le mec s'en rendait même pas compte, en fait, qu'il était jaloux. Donc, ça crée des espèces de situations de comédie qui étaient super marrantes et que je regrette vachement, en fait, de ce personnage qui était très rigolo et qui, aujourd'hui, a vachement perdu de son... intérêt en fait dans le film. Finalement il sert juste à dire bon bah je vous emmène en Jamaïque et c'est tout quoi, alors qu'à la base il avait un vrai rôle narratif dans le développement de la psychologie du personnage, tu vois, qui comprenait que c'était pas comme ça qu'il fallait qu'il devienne aventurier. C'était il devenait aventurier pour les mauvaises raisons en fait au milieu du film, et donc c'était plus intéressant. Enfin bon, excusez-moi, je m'emballe.
C'est super intéressant
d'avoir ces changements là et d'avoir de voir un peu aussi les choses que tu aurais voulu modifier. Je sais pas si c'est le cas autant pour Ernest et Célestine ou Le Grand Méchant Renard. À savoir, vu que Le Grand Méchant Renard, c'est une adaptation de ton histoire aussi, je ne sais pas si dans l'adaptation, il y a des choses que, en fait, finalement, tu aurais voulu faire autrement avec le recul ou des choses que tu aurais modifiées.
Si tu veux, le truc, c'est que sur Ernest et Célestine, déjà, donc, c'est Daniel Pennac qui avait écrit le script.
Oui,
donc, moi, j'arrive dessus. En plus, c'est un script qui nous l'a lu. Et je ne l'ai jamais lu, moi, j'ai repris un script et lu le script. C'est Daniel Pennac lui-même qui lit ses scripts aux gens pour y mettre le ton, tout ça, ce qui est génial. Ce que je recommande d'ailleurs à tous les scénaristes en herbe, c'est que c'est un exercice qui est très intéressant. Alors, tout le monde n'est pas doué pour être doué à l'oral, tu vois, pour narrer une histoire à l'oral, mais c'est passionnant à vivre, quoi. Et puis même, ça aide vachement en tant que réalisateur d'entendre les intentions, tu vois, des dialogues et tout ça, parce que c'est... Ça te permet vraiment de comprendre exactement tout, quoi. Et bon, voilà, ça a été une expérience super. Et donc, on avait le script. Et en fait, si tu veux, on n'a pas vraiment fait de réécriture. Ça marchait tellement bien. On était tellement touchés. On se marrait en l'écoutant. Enfin, on voyait qu'il y avait quelque chose d'efficace. Donc, on savait où était la comédie. On savait... Parce qu'il le fait en public. Donc, tu vois... Même lui, tu vois, ça lui permet de vérifier quand les gens se marrent et tout ça. Donc, on sait ce qui marche. On sait ce qui ne marche pas. Donc, c'est à nous maintenant de faire en sorte que ça fonctionne aussi. Et finalement, la réécriture... qui avait eu sur son script, c'était pas tant de la réécriture, c'était de le... Il avait été très généreux, il a fallu qu'on... Tu vois, qu'on rétrécisse un peu tout, quoi. Il y avait... Le film aurait dû faire 2h30, si on avait vraiment suivi... Il est très, très bavard, tu vois, donc il fait beaucoup... Et puis, il lit vite, mais une fois que tu fais lire par des acteurs, ça...
Ah oui, forcément.
Tu vois, ça gonfle. Donc, voilà, la réécriture, elle se faisait là-dessus. Et du coup, tu vois, t'as pas vraiment de regrets, parce qu'en fait, t'es pas aussi dans la même logique avec une production française, dans le sens où ton producteur, il est là. Et lui, il est tout de suite très content, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que lui, il doit avancer. Il n'a pas un budget illimité, donc il a prévu de lancer l'anime à cette date-là. Donc, il a intérêt à ce que le storyboard soit fini, quoi. Donc, il est vraiment dans une logique de... C'est plus toi en tant que réal qui est exigeant et qui demande à... Tu vas dire, ah, j'ai pas encore réussi à tout bien faire. Et il dit, non, mais c'est génial, c'est super, on y va. super boulot.
Tellement vrai.
C'est pas du tout dans la même dynamique, quoi. Et c'était pareil pour Le Grand Méchant Renard, où en fait, j'étais dans une logique de... Je savais qu'il fallait que je l'adapte, la BD. La BD, je voulais pas en faire un long métrage. Je voulais vraiment en faire un 26 minutes, parce que... pour des raisons perso, quoi. Et en fait, je voyais bien que, bah, du coup, il fallait que je change l'histoire. Donc, je savais qu'il y a des trucs qu'il fallait que je sacrifie. Je voyais qu'il y a des trucs qui marchaient plus aussi en anime, qui marchaient que en BD. Enfin, des dialogues que j'adorais, mais qui prenaient trop de temps, en fait. Donc, après, j'ai beaucoup de choses à dire sur la transition BD-anime. Ce sera un peu long d'en parler. Mais comme je te dis, t'es pas du tout dans la même dynamique. Donc, t'es vraiment dans une logique de faire au mieux jusqu'à ce qu'on te dise stop, quoi. Alors qu'un producteur américain, il te dit jamais stop. Donc, tu es constamment ouais. en train de
pas du tout la même méthode de travail.
Et limite, tu vois, je débarque à la fin de la prod en tant que réel en lui disant « Ah tiens, pour cette séquence, j'ai une autre idée, je le fais comme je te propose de le faire comme ça. » Il est capable de dire oui à 2 mois de la fin de la production. Ah, c'est une meilleure idée. On y va. Est-ce que je débloque l'argent? Oui, parce que le gag, il est vraiment mieux. Mais bon, t'es trop crevé en tant que réel pour faire ça. Mais en soi,
tu pourrais, quoi.
Il pourrait accepter, quoi.
C'est, okay. Tu caches tes bonnes idées de la fin, tu fais « Ouais, non, stop.
» non, un producteur, ce qui est triste en fait en production française, c'est que si t'as une bonne idée alors que le film est vraiment lancé, malheureusement, t'es un peu ton producteur va te regarder en
disant,
Ah, pour le 2, tu vois, j'en sais rien.
C'est un peu triste aussi. Oui, effectivement, il y a des petites choses. Je sais que dans la BD, par exemple, du Grand Méchant Renard, il y a ces 3 petits poussins qui sont dessinés tous de la même manière dans la BD et qui ont une vraie personnalité dans le film. Qui sont tous déjà dessinés de manière différente et leur chara-design est différent et dans la personnalité ils en ont beaucoup plus aussi d'indépendance les uns vers les autres et du coup ce qui est aussi un peu spécial dans ce film c'est que du coup donc tu co-réalises avec Patrick Imbert donc on l'a dit, le réalisateur de Sommet des Dieux et qui a réalisé ce que j'ai compris les 2 autres contes. Donc, un bébé à livrer, il faut sauver Noël.
Il faut sauver Noël,
Et du coup, j'ai l'impression, enfin, tu me contredis ou tu peux développer, mais Patrick Imbert, c'est vraiment focalisé sur ces 2 contes-là, et toi, sur l'histoire du Grand Méchant Renard, un peu indépendant, quoi.
Indépendant, oui et non. En fait, le truc, c'est que... Didier Brunner, il voulait absolument qu'on rebosse ensemble, et moi aussi, j'avais très très envie. Ouais. À la base, il voulait que je refasse un long métrage. Moi, j'étais pas chaud. Il voulait qu'on fasse Le Grand Méchant Renard en long métrage, et moi, j'étais pas très. En fait, quand on avait fini Ernest et Célestine, Patrick Imbert était chef animateur sur Ernest et Célestine. Et on s'était dit, putain, c'est dommage parce qu'on a vraiment une méthodologie. Justement, tu sais, je parlais tout à l'heure des studios, du fait que les studios, une fois que c'est fini, tout le monde s'éclate, enfin, tout le monde s'en va. Et là, on se disait, c'est dommage parce qu'on pourrait vraiment refaire un Célestine pour beaucoup moins cher. Quoi.
Okay. Et
du coup, moi, je m'étais dit, tiens, je voudrais bien prouver qu'on peut faire un truc télé, une série télé, tu vois, mais genre en France, avec le studio à Paris, pour pas cher, quoi. Enfin, entre guillemets, pas cher, parce que c'était quand même un très gros budget, mais je veux dire, tu vois, une animation tradie, assez qualitative. Mais qui reste télé, tu vois, mais c'était ça à l'origine, moi je voulais faire un projet télé et justement prouver qu'on pouvait faire le truc beaucoup moins cher et que ça resterait correct et tout ça.
Ouais.
Et donc il m'a dit « Ok, go pour un 26 minutes, Le Grand Méchant Renard ». Et derrière, il vient me voir et il insiste à mort en me disant « Mais tu veux pas en faire, là t'as 2 autres BD, tu veux pas les faire en anime aussi, on fait 2 autres épisodes ». Et du coup, franchement, j'ai pas très envie, mais bon, allez, go. Mais c'est pas moi qui réalise, tu vois. Et Patrick était partant pour en fait. J'ai cherché d'autres réalisateurs, et puis Patrick, à un moment, m'a dit ouais, je suis dispo, et du coup, j'étais ravi.
Trop bien,
Et il a proposé donc de les réaliser. Et moi, j'ai fait c'est parti. Mais dans les fêtes, si tu veux, j'étais présent pendant tout le long de la prod. C'est juste que je m'en occupais moins, tu vois. Moi, je me focusais surtout sur Le Grand Méchant Renard, parce que c'était un bébé très, très personnel, le Grand Méchant Renard.
Ouais.
Et un bébé à livrer, à la base, j'étais moins partant pour le faire, tu vois. C'était un peu moins mon kiff, je le trouvais un peu moins qualitatif. Enfin, il y avait moins... C'est-à-dire qu'en plus, c'est un truc tellement perso, le bébé à livrer. C'était une BD que je faisais pour mon frangin. Quand il m'a annoncé que sa femme était enceinte, je faisais un blog... Il disait voilà où en est ton bébé en attendant que ta femme accouche, quoi, tu vois.
D'accord,
ça partait d'un truc perso mais fait à l'arrache, enfin tu sais, vraiment un peu et du coup j'étais là, je disais je disais mais c'est pas il n'y a pas de matière pour faire un film, quoi, tu vois, donc j'avais besoin de quelqu'un qui avait du recul pour s'en occuper. Et Patrick était partant, donc et il s'est éclaté, il a créé plein de séquences dedans.
C'est super.
Il a vraiment cartonné. Mais tu vois, j'ai fait l'intégralité du layout du film. Je suis resté présent pendant toute la prod.
Parce que du coup...
On en discutait, en fait, on était un peu co-réal de tous les deux sur le reste du film, quoi.
Oui, parce que du coup, je n'ai pas précisé, mais on l'a un peu dit, si jamais, dans Grand Méchant Renard, il y a 3 courts-métrages. Et c'est une présentation un peu comme au théâtre, où le renard arrive, coucou, il y a des petites perturbations, on organise la scène, les rideaux sont fermés, puis les rideaux s'ouvrent, le court-métrage commence. Et du coup, c'est quelque chose qui je trouve...
Super ludique, hein.
Ouais, c'est très, très malin. Parce que déjà, en soi, c'est un film qui est destiné à la jeunesse. Et mais enfin, en tant qu'adulte, moi, ça me fait mourir de rire. Mais voilà. Et en soi, tu peux très bien te dire, je montre un épisode à ton enfant ou à un enfant, et on regardera le suivant demain ou quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose de, il y a une histoire complète en 15 minutes, on va dire, et enfin 15 minutes, un peu plus, mais voilà. Et cette présentation au théâtre fait que même durant les entr'actes, tu t'ennuies pas. Il y a quelque chose où c'est un peu dynamique. Quoi.
Bah, c'est... Écoute, ouais, c'était moi ma référence pour ce film, en fait, parce qu'à la base, je voulais pas vraiment faire un long, parce qu'il m'avait dit on va en faire trois, mais il m'avait pas dit on fait un long métrage avec, quoi.
Ouais.
Et c'est après qu'il m'a dit tu veux pas faire un lien pour faire un long métrage? J'ai dit, tu m'as
dit. Il a fait l'envers, je t'ai vu.
T'as réussi, et du coup, j'ai dit ah bah tiens, on peut essayer de faire ce petit système là, ça me fera marrer. Et moi, en référence, j'avais en tête, je me disais, bon, allez, pense à Goscinny quand il a fait Les 12 travaux d'Astérix. Ouais. Ce film qui était très sketchesque, en fait, tu vois, vraiment des trucs très... Enfin, voilà, des petits films à sketch, finalement. La balade des Dalton, c'est pareil, c'est... En fait, t'as pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de scénario dedans, finalement. Tu vois, c'est vraiment, on avance. Il n'y a pas un arc dramatique, t'as pas Astérix qui commence, tu vois, avec... l'arc du héros, je sais plus comment on dit là, le acte 1, acte 2, acte 3,
oui.
Non, y a juste la maison des fous, Obélix il mange la bête et puis ils se battent contre un judoka allemand, quoi. Mais du coup, voilà, je me disais bah on est un peu dans cette logique très très ludique, voilà, on s'en fout, on s'amuse, on rigole, on est là pour s'amuser, quoi. Et puis c'était un peu l'esprit qu'on a essayé de communiquer dans le film, quoi.
Et tu disais que du coup en partant de la BD, tu avais eu d'autres problème pour adapter, alors du coup on pourrait penser que bah, ça te fait un storyboard déjà de base avec déjà des cardslides, ouais, on pourrait penser que ça, c'est plus simple.
Non, en fait c'est assez compliqué parce que déjà, du coup, déjà de base, les gens vont, ton producteur vient te voir en disant ah bah c'est bien, t'as déjà ton storyboard, tu fais oula.
Ouais, justement, c'est ça.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ouais, non, bah t'as des trucs tout bêtes, là. Une anecdote que je citais beaucoup quand je parlais du grand méchant renard, au niveau du travail des voix, par exemple, c'était ce qui s'était passé quand Hergé avait adapté ses BD en live action. Tu sais, il y a longtemps, Tintin, il a été filmé enfin, il y a des vieux films Tintin qui sont pas très bons, pour être très franc, mais... Et apparemment, il y a un enfant qui était sur le tournage et Hergé était allé lui demander « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Et l'enfant lui avait répondu « Bah, le capitaine Haddock, il a pas la même voix que dans la BD. » Et tu vois, déjà, ça, en fait, chacun va avoir un attachement en lisant la BD qui est... En fait, la bande dessinée, il faut se rendre compte que quand tu lis une BD, bah, tu la lis. Et tout ce que finalement t'aimes pas, tu vas un peu l'ignorer. Enfin, tu vas passer au-dessus rapidement, en fait. Tu vois, tout ce qui te fait pas rire, un gars qui tombe à l'eau, en fait, bah, tu l'as lu, mais ça n'a pas d'impact sur toi. Mmh. Alors qu'en animation, si tu veux, tu contrains le spectateur à le regarder, ce gars qui, toi, te fait pas rire.
C'est vrai.
Et dans Grand Méchant Renard, si tu veux, tu avais un côté où il y en avait un peu pour tout le monde. Il y avait des gars qui étaient très cyniques, il y avait des gars qui étaient beaucoup plus enfantins, il y avait des gars qui étaient beaucoup plus slapstick. Donc, tu vois, ça peut atteindre un public un peu plus large, mais forcément, quand tu adaptes, bah, y a certains gags ou des situations que bah, soit tu les mets pas parce que t'as pas le temps, ou soit ils marchent pas aussi tout bêtement parce qu'ils sont vachement lents, ou parce qu'ils sont... tu les avais joués dans ta tête, et puis en fait quand tu fais jouer par l'acteur, t'arrives pas à trouver cette énergie, tu vois, qui te fait rire. Et moi, il y avait un gars que j'aimais beaucoup dans la bande dessinée, c'était le moment où il couche les poussins et il stresse parce que dans la bande dessinée, en fait, il a des poussins et il les met dans un chaudron pour les faire dormir. Et il met le couvercle parce qu'il pleure. Et puis à un moment, il les entend plus, donc il commence à s'inquiéter. En disant, ça les a étouffés, donc il rouvre et puis il se remet à pleurer. Enfin, et ça venait de... C'était inspiré de moi et ma copine quand on a eu des perruches pour la première fois. On ne savait pas trop comment gérer ça. Et du coup, en fait, on savait que la nuit, il faut les recouvrir dans la cage d'un... une grande couverture, et ma copine se disait mais ils vont mourir épuisés, étouffés, tu vois, je dis, non, mais il y a de l'air qui passe en dessous, et du coup elle a retiré le truc pour voir si elles étaient encore en vie, et puis elles sont remises à comme ça, donc, et pendant un quart d'heure elles sont mises au milieu de la nuit et du coup voilà, j'adorais ça parce que franchement la séquence, enfin ce qu'on avait vécu ensemble, c'était super drôle à regarder. Mais voilà, ça marchait plus en animation, c'était ultra long, puis ça, voilà, enfin c'est plein de petits détails comme ça qui font que bah t'es obligé de sacrifier, quoi.
Ouais.
C'est super intéressant. Donc, c'est vraiment, genre, merci beaucoup. Vraiment,
c'est super intéressant. Du coup, dans un peu toutes tes productions, on va retrouver déjà un humour, parce que même en comptant tes courts-métrages, mis à part le tout premier.
Le corbeau voulant imiter l'aigle ou...
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Ouais.
Et à part celui-ci. Y a, qui est pas drôle en soi, toutes ces deux autres
Bah, c'est marrant
productions,
que
il y
tu
a
dis
vraiment
ça parce
l'humour.
que moi je me rappelle que, enfin, je le prends pas du tout mal que tu dis que c'est
Non,
pas drôle, mais
mais
pour
par
moi, enfin, pour
rapport.
moi il était assez drôle parce que, en fait, t'as la chute où, en fait, bon, c'est
Ouais.
l'histoire, le corbeau voulant imiter l'aigle, c'est un corbeau qui voit un aigle choper un mouton. Et le corbeau veut faire pareil et en fait il s'en mêle, enfin il n'arrive pas à le faire quoi. Et en fait à la projection, on a des petites projections à la poudrière et les gens, voyant la conclusion, rigolent un peu quoi. Enfin tu vois, il y a sur la chute quand on découvre le corbeau qui est coincé sur le mouton. Et pour moi c'était un film, enfin c'était très dans la logique de La Fontaine avec cette espèce de chute où les gens font, enfin tu vois, où t'as la... Tu rigoles pas, mais t'es... Enfin, c'est pas
Oui, en
comique,
fait,
quoi, tu
c'est pas
vois.
le même humour, peut-être
Oui,
aussi,
c'est
c'est
ça.
vrai.
Mais il y a quand même un fond de comédie, de la fable,
D'accord.
quoi, tu vois,
C'est ça,
ouais.
y a c'est une forme
Et
de
une
moquerie,
morale
donc
aussi.
il y a un peu de
Ouais, c'est
cynisme.
ça, exactement, ouais. Il y a une petite moquerie,
En tout cas, il y a des animaux. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans
ouais.
pratiquement tous tes films, sauf le
Ouais,
court-métrage Le plus gros président du monde. Et
Oui, on sait pas trop ce que c'est comme truc, d'ailleurs. C'est un
ouais,
humain qui tue
bon,
un oeuf.
voilà.
C'était inspiré d'un œuf Kinder Surprise, là. C'est de...
Ah, d'accord, ok, je vois le.
Ouais. Il y avait ça sur ma table, je me suis dit, bon, allez, on va faire ça.
Mais c'est hyper efficace, c'est très drôle.
Ouais. En
Je
fait,
t'invite à aller
on
voir.
avait qu'un mois pour faire le film, donc si tu veux, l'idée
Ouais.
c'était d'aller très vite, quoi. Donc,
Ouais. Mais
ouais.
c'est très efficace, ça dure 1 minute. C'est très très drôle. Et sinon, du coup, t'as les animaux, t'as l'humour et t'as la thématique de la famille aussi qu'on va pas mal retrouver sous des formes assez. Comment dire, pas forcément habituel, dans le sens où Ernest et Célestine, donc c'est une petite souris qui vit dans un monde souterrain, les ours vivent dans le monde en surface.
À la surface, ouais.
Et donc la règle, c'est vraiment, ils ne doivent pas cohabiter, ils ne doivent pas se parler, ils ne doivent pas être amis, surtout pas. Enfin, voilà. Évidemment, Célestine, elle est un peu curieuse et elle veut pas être dentiste. Ernest, lui, c'est un artiste, il
Il est
fait de
en
la
marge.
musique, voilà, il est un peu en marge et il a faim. Et en fait, bref, ils vont se rencontrer, il va y avoir toute une histoire d'amitié qui est très forte, et puis même vraiment ben un peu paternelle en même temps. Enfin, en gros, surtout, ils vont se créer leur propre famille, leur famille choisie un petit
Ça,
peu,
ouais,
dans
c'est
ce
ça.
monde où en fait, qui ne les accepte pas comme ils sont. Parce que du coup, Célestine, elle est très, elle est aussi une artiste, elle dessine et voilà. Donc c'est pareil, il faut absolument qu'elle soit dentiste dans son monde, donc elle est frustrée. Et dans Le Grand Méchant Renard, c'est le renard qui, sans compter le bébé à livrer, où il y a aussi ce truc de la famille, voilà. Le Grand Méchant Renard, il kidnappe ses poussins pour les manger avec l'idée du loup. Mais en soi, en fait, il s'attache vachement à ses petits poussins et
Ouais,
il
qu'il
veut
la
plus les
prenne pour sa
lâcher.
maman,
Bah
alors qu'en
oui.
plus c'est un
Ouais.
mâle et il va rester dans ce rôle de maman,
Ouais, il y a cet aspect un
Oui.
peu monoparental, adoption. Il y a, bah, tu sais, y
Ouais.
a un peu cet
La
aspect-là.
différence, les poussins du coup ils se prennent pour des renards quand après ils se retrouvent à
Ouais.
retourner avec d'autres poussins qui mordent les poules.
Et dans Migration, on est vraiment dans cet aspect
La
famille,
famille.
bon, la famille complète,
Ouais.
en mode presque lambda en soi. Il y a le père, la mère, la
Et
petite
Gwen, elle est trop
fille,
mignonne.
Gwen, ouais.
Ouais.
T'as le garçon un peu vif, voilà. Et t'as même l'oncle un peu bizarre qui est
L'anglais,
là. Et
le
donc,
suicidaire.
c'est des thématiques qui te tiennent à cœur, que t'as envie de garder, ou est-ce que, en fait, c'est comme
Les
ça,
projets
ils
sont proposés, c'est
sont proposés un peu
resté.
comme ça et.
Écoute, ouais, je pense que après c'est un truc que tu t'en rends compte au fur et à mesure en faisant les projets, tu vois, de ce qui t'attire, mais au début tu n'y penses pas vraiment, tu le fais
Y a un
parce
pattern.
que t'es... Ouais, voilà, et puis en fait après tu te dis, bon,
Au
il
du
faut que tu
troisième, genre.
réalises. Bah, y a un autre truc que tu n'as pas cité, mais presque tous les films que j'ai faits, il y a un personnage qui menace de se faire dévorer par un autre aussi.
C'est
C'est
vrai,
oui, c'est vrai.
c'est vrai.
Un autre
C'est
truc
vrai.
qui. qui revient beaucoup et je sais pas ce que ça témoigne, parce que c'est une vraie peur que j'ai dans la vraie vie, donc je sais pas.
Peut-être,
mais ouais. De me faire dévorer par quelqu'un. Posez pas des questions là-dessus. mais du coup, ouais, bah écoute, c'est quelque chose qui revient. C'est vrai que même là, dans les projets que j'essaie de faire par la suite, ça tourne encore un peu autour de la parentalité. Je sais pas si ça se fera autour de ça, mais. Mais ouais, après, si tu veux, tu sais pas trop. Enfin, tu réfléchis pas trop, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ou en tout cas, il se trouve que ce projet, en parlant, je avec le producteur, je sentais que je m'éclatais à en parler autour de moi, avec les gens. Enfin, tu vois, qu'il y avait une thématique qui me touchait. Ouais. Le grand méchant en art, c'était pareil. Ernest et Destinée, c'était pareil. Enfin, du coup, après, c'est aussi. Par exemple, si on me propose de faire un film, je sais pas moi, sur une course automobile, sur la. Bah, tu vois, il y a un exemple que Le Sommeil des Dieux, Patrick Imbert le faisait en parallèle qu'on finissait le Grand Méchant en art. Et des fois, il me proposait de lire le script. Et moi, je lui disais, non, mais les courses de bide, qui monte le plus vite l'Everest, je t'avoue que c'est ma. Enfin, après, je trouve que le film est incroyable, tu vois.
Ouais,
j'adore le film, mais la thématique dans.
Tu te sentais pas de.
Ouais, elle m'intéresse pas du tout. Ouais, enfin, ouais. Vraiment. Enfin, je comprends pas pourquoi les mecs ils font ça, tu vois. J'arrive pas à rentrer dans leur psychologie, je suis juste là en train de me dire, ouais, ben. Enfin, moi, ce côté de je monte l'Everest. Par la face la plus dure en plein hiver dans les pires conditions pour montrer que je suis le plus fort, tu fais bah, éclate-toi, mais je comprends même pas.
C'est tout le truc de quand tu vois le film et tu te dis, en fait, t'arrives à te mettre à la place des personnages, le film arrive à te faire comprendre pourquoi ils font ça, enfin pas totalement, mais en même temps t'es pris dedans, etc.
Ouais,
en soi, de travailler dessus quand ça te parle pas trop, c'est dur, quoi.
Bah, c'est aussi parce que t'as besoin de t'attacher au personnage pour ensuite être dans la capacité d'imaginer des séquences, de trouver de l'humour là-dedans, de vivre. Moi, j'ai un petit peu ce problème de une limite aussi artistiquement, c'est que c'est vrai que si je peux pas me projeter ou avoir envie d'être le personnage à l'écran, j'ai du mal à prendre du plaisir à imaginer des gags ou des situations touchantes, émotionnelles autour de cette thématique, quoi.
Ouais.
Et du coup, t'as déjà refusé des projets où tu t'es dit non, ça correspond pas du tout avec mes envies, mes attentes ou
Oui, ça m'est arrivé quelques fois. J'ai eu un projet là qui est un très très beau projet que Didier Brunner m'avait proposé, mais ça parlait beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, de la judaïté, tout ça. Et en soi, je lui disais, écoute, Didier, le film, il va être super, c'est génial, mais je me retrouve pas là-dedans, en fait, j'arrive pas à. En plus, il y a un travail de documentation, tu vois, que moi, c'est pas trop trop mon truc. Ouais, bah non, mais moi, j'aime bien justement parler des émotions, des côtés très intimes, des relations, des choses comme ça, ou de l'humanité, de la fable, en fait, tu vois, de parler de l'humanité de manière très générale. Mais dès qu'il fait. Enfin, tu vois, là, c'était le New York des années. Pendant la guerre, quoi, et aller chercher des vidéos, tout ça.
Ouais.
Enfin, c'est sûr. C'est pas que pour ça. Après, c'était plus aussi la judéité, c'est quelque chose que je connais pas du tout, donc je sais même pas. Bien en parler, en fait. Ouais. Je sais pas si je suis légitime pour en parler, je sais pas si je peux comprendre la problématique du personnage principal. Donc voilà.
C'est bien à prendre en compte, effectivement.
Ouais, mais après c'est très perso, hein. Ça veut pas. Je dis pas du tout que en disant ça, je dis pas qu'un réalisateur doit du personnage. C'est un truc très perso. Je sais que moi, j'arrive pas.
C'est surtout que, enfin, travailler pendant 5 ans sur un projet, faut les aimer un minimum, quoi, dès le début. Sinon, ça devient. Enfin, et puis en plus, si ce sont sur des sujets si difficiles. Faut être accroché, quoi. Il faut vraiment avoir envie de parler de ça.
Je connaissais aussi assez bien la scénariste et le réalisateur et le DA de Funan, Lido, Michael Cruzat. On voyait le film se faire, et j'avoue que le film, encore une fois, est extraordinaire. Mais quand je lisais le scénario, je disais, putain, vous êtes courageux, les mecs. Hein, parce
que tu te verrais pas forcément, parce que c'est des films, là on vient de citer des films d'animation qui sont destinés plus au public adulte. Est-ce que toi tu te verrais du coup réaliser un film, parce que tes films là pour l'instant peut-être ils visent plutôt un public jeunesse, familial, Et est-ce que tu devrais plutôt viser un public plutôt adulte pur, pas forcément en
Le
faisant
non, enfin,
des thématiques
le truc, c'est que je sais pas si je suis capable. En fait, j'ai pour donner un exemple, tu vois, Le Grand Méchant Renard, je ne pensais pas du tout que c'était une BD pour enfants avec Lewis
Ouais.
Trondheim quand on l'avait fait. Même Lewis était surpris, en fait. Parce que tu sais, ça parle beaucoup des parents, c'est très bavard.
Ouais.
Donc pour moi, c'était une BD qui parlait plus aux parents, éventuellement, tu vois,
Oui, c'est vrai.
que aux enfants. Et on a été surpris de voir. Parce qu'elle n'a pas du tout été, même, tu vois, Delcourt ne l'a pas vendue comme ça à la base aux
Ouais, c'est
libraires.
ce
Et
que
même les
j'allais dire.
libraires eux-mêmes. Je me rappelle un libraire qui me disait qu'il était plein parce qu'on avait reçu le prix, le journal de Mickey, un truc comme ça, et on avait du coup un sticker prix journal de Mickey, et il y avait un libraire qui les retirait parce qu'il disait ça me fait chier, ça me retire un. Je peux plus le conseiller aux adultes parce que les adultes se disent c'est pour les gamins.
Ouais, c'est
Et du
vrai.
coup, en fait, si tu veux, quand je fais les films, je les fais toujours en me disant bah, est-ce que ça me ferait rire? J'ai peut-être un humour encore très enfantin, ce qui fait que ça touche les enfants, mais à la base, je reste quand même dans une logique très. Yves Robert, tu vois, ce genre de comédie française qui finalement faisait autant rire les gamins que
Bah, le grand méchant renard, c'est ça, hein. Vraiment,
Ouais.
c'est quelque chose, je me dis, c'est pour ça aussi que je dis familial, mais c'est aussi drôle à le regarder adulte qu'à le regarder enfant, je
Ouais.
pense.
Il marche
Il y a
bien.
quelque
C'est
chose
cible
de...
public, quoi. C'est
Ouais.
la logique de la guerre des boutons, des choses comme ça.
Ouais,
C'est
voilà.
ça, des films où
C'est,
tu
ça
marques,
reste.
quoi.
Ce sont des films qui sont légers aussi. Ça fait partie de ce qui fait qu'ils sont super agréables à regarder. C'est qu'en fait, c'est très très doux et ça passe tout seul, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que des films comme Funan, c'est moins léger. C'est très bien, mais c'est moins léger.
Ouais,
Et
et il en faut,
il en
tu
faut
vois,
aussi,
justement,
ouais.
c'est ça.
Ouais,
Moi, je me dis,
complètement,
bon,
complètement.
je
Mais c'est
fais
comment?
mon
C'est
rôle
des.
de amuseur public et puis je suis le
Mais
con.
c'est
Ouais, en
des
même
notes
temps, ça
d'intention
marque quand
différentes.
même, hein, même si
Et
le film,
c'est
il
ça,
est.
complètement.
Ouais, voilà.
Ouais.
C'est pas
Non, mais
genre, tu
Denis
l'as
2,
vu
c'est
et
clown
tout.
triste et moi, je suis le clown. Je sais plus comment. Il y a une super belle scène d'ailleurs dans Les Enfants du Paradis où, alors peut-être là, j'ai vu il y a super longtemps, mais où il y a justement le clown triste et le clown pas triste, alors, je sais pas comment on l'appelle ça, mais qui discutent de leur rôle, quoi.
Ouais.
Enfin, tu vois, ceux qui sont là
Ouais,
pour la comédie et ceux qui sont
ouais.
là pour le pathos, le drama.
C'est Denis
Et je
Douai,
dis
quoi.
pathos pas dans le sens négatif,
Oui,
hein,
non,
dans
le
le
pathos,
sens
il faut
noble
juste.
du terme, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais, quand même.
Tes dessins, en tout cas, sont très expressifs. Il y a vraiment quelque chose qui est centré sur l'expression. Les personnages, ils ont souvent
Ouais.
des grands yeux, une grande bouche et des poses qui sont... Ça, c'est le
Ouais.
renard.
Je vais m'en prendre une dans 2 minutes.
Non, et du coup, c'est l'expression, elle est au centre un peu du dessin et de l'histoire, où
En
il va
fait,
y
c'est un
avoir d'autres
peu.
choses qui...
Si on parle d'animation, ça fait un peu l'âme, on va dire ça comme ça, puisque
Ouais, ça va faire le
animation,
lien aussi
etc.
entre
Et
le...
c'est ça. Mais enfin, dans le sens où l'expression, c'est en même temps la marque de fabrique et c'est ce qui donne aussi l'expressivité énormément à l'animation. Et moi, enfin, je sais pas si c'était là quelle est ta question, Antoine, mais
Je sais pas où
comment,
elle
il y
allait.
a un truc où comment j'en sais. En fait, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que dans Migration, on est sur de la 3D. Donc, du coup, avant, avec Ernest et Célestine et Le Grand Méchant Renard, on était quand même sur de la plat. Donc, du coup, en fait, les formes vont être beaucoup plus faciles à être expressives et à déformer
Ouais.
parce qu'on est dans le cartoon, parce qu'on est dans la 2D, etc. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça super intéressant de retrouver assez facilement l'expressivité et en fait le style lui-même dans la 3D. C'est aussi un taf d'animateur, chapeau à
Ouais.
eux. Mais il y a vraiment quelque chose où on voit les dessins de base et en fait c'est plutôt édifiant. Enfin,
Oui, parce
mais
que...
donc du coup le
Ouais.
challenge il était là en fait de passer à la 3D quelque chose qui était quand même très 2D à la base.
Je n'ai pas beaucoup de recul là-dessus parce que sur le passage de la 2D, moi, effectivement, je dessine très, très expressif. Alors, je pense que c'est quelque chose que j'aime bien de base, quoi. Enfin, je suis un élève, entre guillemets, spirituel de Franquin ou de Uderzo, enfin, donc des dessins très, très marqués. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Roger Rabbit et toute mon enfance, j'imitais Roger Rabbit lui-même, tu vois, avec mes parents. Et du coup, je pense que ça, y a un truc qui a traîné là-dedans et qui fait que j'étais un peu modelé par ce genre Après, ouais, je sais pas, avec la 3D, ça s'est fait de manière un peu. Je suis un peu complexé, moi, par le fait que je fais toujours des gros yeux avec des toutes petites billes au milieu, là, pour les personnages. Je trouve que ça fait très années 90, quoi, comme style.
Ah, ok.
Mais après, j'ai besoin de ça parce que j'ai besoin des gros yeux pour être expressif
Ouais.
et rire, en fait, d'un regard, tu vois.
En même temps,
Je sais que je suis très.
le traité est à
Juste par
l'aquarelle
exemple.
aussi, et donc du coup ça fait aussi quelque chose de, je trouve, plutôt moderne comparé peut-être à plus
Ouais,
à Franquin ou des ou la colorisation est plus à l'ordi avec des c'est uni,
grave.
etc. Donc
Ouais,
oui,
écoute, après, non, mais je vis avec tant que les gens me traitent pas de vieux pépé ringard, tu vois, mais ouais, non, ça reste en tout cas, ouais, sur le migration, ça s'est fait un peu naturellement, quoi. C'est-à-dire que j'intervenais aussi, tu vois, au niveau de la direction artistique, donc effectivement, je poussais pour que les yeux soient un peu gros, tout ça, parce que ouais, après, c'est une question de regard. En fait, je dis toujours, est-ce que ça te fait rire quand tu vois le personnage, enfin, la gueule du personnage? Moi, il y a un acteur que j'adore qui s'appelle Steve Carell, hein, que vous connaissez sûrement. Hein. Et t'as des plans dans la série The Office où son regard est juste, mais tu te marres juste de. Et tu vois d'ailleurs dans les bêtisiers que les gens n'arrivent pas à tenir tellement il est drôle. Il est ultra doué pour un regard de haine, tu sais, avec des yeux énormes et tout. Et il a un talent pour ça qui est dingue. Et je dis toujours, ouais, non, mais essayez d'atteindre cette espèce de comédie, quoi. Enfin, tu vois que tu vois la gueule du perso et tu te marres, quoi. Enfin,
Ah, c'est trop
et c'est
drôle.
quelque chose en 3D qui n'est pas forcément évident à choper parce qu'en fait, ils ont. C'est comme si tu avais une marionnette, tu vois, un petit Pinocchio en
Ouais.
bois. Et du coup, tu es un peu limité par les trucs. Et si tu veux vraiment atteindre des trucs chelous, tu es obligé d'aller au-delà de ce qui est prévu à l'origine, en fait,
C'est ça,
d'écarter les
c'est.
trucs. Donc, ils ont dû apparemment créer. Alors, parce que moi, je ne connais pas grand-chose à la 3D. Et ils me tenaient un peu éloigné de ce genre de problématiques techniques. Mais
On se pose la
apparemment,
question.
ils évoquaient le fait qu'avec moi, c'était normalisé le fait qu'on passait au-dessus. Ils avaient des. Alors, je sais plus comment ils appelaient ça, là, les. Enfin, un truc pour dépasser les trucs, les stickers, je crois, je sais plus quoi.
Déformeurs ou des
Enfin, en
choses comme
gros, pour.
ça.
Ouais, enfin, des déformants, mais qui dépassent le truc, tu vois. Ils en plaçaient
Ouais.
partout sur le visage, sur la bouche et tout
Oh, c'est trop bien.
pour trouver un moyen Et pour
Mais...
aussi que les yeux sortent des orbites, tout ça. Enfin, c'est des trucs que je leur demandais toutes
Il
les
y a un gag
deux
aussi qui est
secondes.
drôle.
Ouais.
Avec Gwen qui essaye de sortir ses yeux, c'est
Ah
trop mignon.
oui.
Mais
Oui, ouais, bah
comment?
ouais. Ça, c'est marrant parce que ça venait d'un dessin de storyboard et après l'animateur, il s'est retrouvé.
Mais
Je lui
c'est
ai dit,
dans
bon, bah, tu me
Deadly
fais
Show.
ça, il faut qu'elle soit drôle.
Ouais.
Et il était là, putain, merde.
C'est des, je trouve
Mais
que c'est des passages comme ça
déformé,
où
quoi.
on reconnaît tout de suite ton humour parce qu'il y a des choses où c'est un film du coup assez hybride, je trouve. On reconnaît vraiment la patte d'Illumination vu qu'il y a
Oui.
toute la partie
Ouais.
3D, lumière, texture, choses comme ça. Et le scénario qui est vraiment en partie aussi américain à la base. Et le truc, c'est que là, sur des expressions et des blagues, je me disais, ok, enfin
Ouais.
là, ouais, vraiment, je vois
Il y
tout
a
de suite.
un tempo comique qui est super reconnaissable aussi
Effectivement, ça
Non
a
mais
joué dans le
en
regard
vrai,
souvent.
en vrai, il m'a vraiment laissé une grosse carte blanche sur le ton du film. Enfin, en tout cas, il me laissait. En gros, il me disait quoi faire, mais il me disait pas comment.
Ok.
Enfin, tu vois, il me disait pas, tu fais ce gag-là avec ce type de truc, tu me fais un prouc là et machin. C'est genre, je veux que cette séquence exprime cette émotion-là et
Ouais,
démerde-toi avec. Enfin, il me disait pas démerde-toi avec, et puis il y a toujours un script que j'essayais de faire, et des fois j'y arrivais, des fois j'y arrivais pas. Et quand j'y arrivais pas, bah, je proposais autre chose, et
Ok.
souvent avec un gars. Après, je dis ça comme si j'avais tout écrit ou tout machiné, mais il y a beaucoup de l'équipe aussi qui a énormément participé à trouver des idées. Il y avait des scénaristes aussi qui étaient là pour trouver des idées, mais effectivement, il y a pas mal de moments où clairement il m'a laissé un peu carte blanche, et moi je m'éclatais dans mon coin à faire mes petits boards et tout ça, et puis après, ça le faisait marrer. Ou pas, des fois, hein, il y a plein de trucs. Je ne vais pas marrer,
Et du coup, il y a des
mais.
choses que tu as pensées, du coup, parce que tu travailles, enfin, du coup, en 2D, que tu as pensé en 2D et que tu as
Ouais.
présenté à des gens en 3D et qui t'ont dit, bah là, du coup, techniquement, c'est pas adaptable, ou ça, par exemple, ça s'est pas
Non,
du tout posé.
t'as pas vraiment de truc où
Barrière.
tu te dis, c'est pas faisable en 3D ou en 2D là-dessus. Non, il n'y avait pas vraiment, tu vois, de truc de. Enfin, déjà, moi, en faisant le board, bah, je l'imaginais un peu, tu vois, ce que ça
Ouais,
pouvait
c'était
donner
ma
en 3D.
question.
Donc, il n'y a pas eu de moment où, quand bien même, tu sais, j'aurais fait un truc en 2D, on aurait trouvé une solution. Enfin, tu vois, on aurait trouvé un truc graphique pour le faire. Et en plus, encore une fois, c'est un studio Illumination qui. En fait, c'est marrant parce qu'il y a des boardeurs qui venaient, qui étaient français, et qui me disaient, ah, je fais quand même gaffe à l'économie du film. Et je disais, non, 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 non. Si tu veux mettre une foule de 10 000 personnes, tu mets une foule de 10 000 personnes, c'est pas le problème. Il me dit, ah, quand même. Je dis, non, non, ce qui coûte cher ici, c'est de valider les choses par le producteur, en fait. Tu vois, parce que c'est plus
Ouais.
de. c'est pas tant de faire un truc qui coûte cher, si ça coûte cher, au contraire, c'est peut-être mieux parce qu'il va avoir plus de regrets de dire ah, finalement, on change. Alors que ce qui est compliqué, c'est enfin, tu veux que le film coûte pas cher, il faut que le producteur il valide. Et c'est donc, n'hésite pas à faire quelque chose. Ça veut pas dire éclate-toi à faire des trucs qui coûtent un bras, mais la logique du film, c'est pas vraiment de se dire. Après, je
Ouais,
dis ça, le film, faisait
contraindre tout de
toujours
suite.
gaffe à placer les caméras de manière à éviter de
Oui,
filmer
mais pas
pendant
de se contraindre
trois
tout de
minutes un
suite dès le
plan séquence
début.
de foule, quoi.
Ouais.
Ouais. Mais
Et
après, il y a quand même des séquences qui sont assez formidables, juste aussi techniquement à faire. De toute façon, l'entrée dans New York enfin, moi, je pense au rendu en 3D. En fait, le problème, c'est que moi, quand je vois des films en 3D, je pense au temps de rendu et je suis là, genre,
Ouais.
oh mon
Ouais.
Dieu.
Et c'est assez
Oh là
effrayant
là.
les temps de rendu, c'est un
Ouais.
truc.
Oh non! Et comment?
Ouais.
Mais le rendu est vraiment formidable et il y a vraiment, enfin, il y a toute une scène très très longue où quand il tombe, à partir du moment où il tombe d'un immeuble et donc du coup il se retrouve propulsé plus dans la rue et donc entre les voitures, etc. Où là on est sur un plan séquence et où la caméra suit plus ou moins avec, enfin, avec un travail assez chouette de suivi et comment? Et où là, du coup, le film s'autorise aussi techniquement des trucs un petit peu, enfin, où ça met les potards, quoi. Genre,
Ouais,
ça va
c'est
très très loin
un peu des money shots,
techniquement, en
quoi,
fait.
ouais,
C'est
clairement.
ça,
Ouais, c'est
et
marrant cette séquence parce que, enfin, juste pour l'anecdote, je travaillais à l'origine sur le film avec une productrice exécutive que j'adorais, un truc de dingue, enfin, vraiment. En fait, à la base, j'étais venu sur le projet pour elle parce qu'elle était, on s'adorait artistiquement parlant et narrativement parlant. Et cette séquence-là, c'est marrant parce qu'à l'origine, elle était beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus, ces séquences d'action, machin, tout ça.
ouais.
Et elle me disait, putain, c'est encore votre truc d'animateur là qui vous éclatez à faire vos roller coasters à la con là. Enfin, elle m'avait foutu vachement l'espèce de truc de.
Le
Ouais, mais
phrase.
et je savais qu'elle avait raison. Tu sais, je ouais, bon, c'est vrai. Enfin, tu sais, des fois, tu te rends pas compte en tant qu'animateur que tu fais des plans pour te faire plaisir à toi en tant qu'animateur en te disant, ouais, regarde mon chef-d'œuvre et tout. Alors que le public, il t'en fait un
Ouais.
peu plus. Et du coup, elle est beaucoup plus courte, mais à l'origine, elle c'est presque 2 minutes de gag et de. Donc ça tombait, des trucs comme ça.
Ouais, il faut
Et
pas
en
donner
fait,
la
on l'a
gerbe non
réduit
plus.
à. Ouais, après, c'était pas. Non, mais c'était un. Enfin bon, bref, ouais, non, c'était juste pour l'anecdote
Ouais.
du côté, justement, où des fois, on essaie de faire des money shots, des morceaux de bravoure, et en fait, ça fait
Oui.
tellement. Si t'as pas une intention émotionnelle derrière, en fait, c'est toujours un peu creux, quoi. C'est
Oui.
toujours
Ouais.
les trucs. Elle a coûté
Mais
un
non.
bras, cette séquence, elle était très
Bah.
compliquée à faire et 6 mois à être faite, quoi. Tu vois, c'est un truc de dingue.
Ouais.
Ouais. Alors oui, mais en fait
Ouais.
moi je la trouve intéressante. Alors si moi je trouve qu'elle a sa place justifiable dans le film dans le sens où vu qu'il découvre truc, c'est très oppressant parce que ça va
Oui.
très très vite et donc du coup en fait juste narrativement c'est complètement cohérent. C'est
Oui.
pas
Non, non, mais je dis qu'aujourd'hui, elle est bien comme elle est, mais à l'origine,
Ouais.
heureusement qu'elle a été là pour me dire, tu fais tes petits délires
Oui.
d'animateur, là, parce que je te dis, sinon, on partait sur un truc enflé. Non, non, ouais, c'est clair que.
Non, mais en fait, de manière générale, si on reste sur l'aspect technique, donc du coup, il y a des séquences qui sont très, 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 très ambitieuses en termes d'animation. En termes d'effets et de décors, etc., ça, tu l'as déjà expliqué en conférence ou en interview, mais il y a tout un aspect direction artistique du décor et essayer de dé-3Diser un peu le décor. Et moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on est quand même aujourd'hui dans une période où on essaye de faire rentrer la 2D dans la 3D et inversement. Et comment? Et donc, du coup, essayer de trouver des techniques pour pouvoir mettre de la DA en place, comment écraser un petit peu le décor ou alors dé-3Diser l'effet trait, énormément d'informations dans l'image à cause des techniques qu'on met en place pour la 3D. Ici, vous avez fait une Bambi avec des décors du coup un peu blurés qui sont faits, je crois, au compositing, c'est ça? En
Oui,
dernière
beaucoup au
partie.
compo, ouais.
Mais c'est un truc où vous avez tout de suite testé de voir si vous aviez cet effet-là, ou alors au départ vous avez pensé le film avec des décors très fournis, et après en fait quand vous êtes passé à l'étape de compositing, vous avez dit Ah, en vrai, on pourrait essayer de faire ça, ou alors c'est vraiment quelque chose qui est pensé très très tôt, hein, techniquement.
Non, c'est ouais, c'était quelque chose qui était pensé très très tôt, même à la limite au moment où j'ai rencontré Chris May et Dandry, je lui disais, écoute, moi, enfin, j'adore tes films, mais esthétiquement, je suis un peu mal à l'aise avec, enfin, voilà, je sais pas si je pourrais faire un truc comme vous faites, quoi, parce que je suis pas très sensible à des couleurs très saturées et au ciel bleu constamment. Moi, j'aime bien justement quand il pleut, enfin, j'aime bien, je trouve que ça peut être magnifique et tout ça. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, on verra, essaye, n'hésite pas. Et surtout, et ensuite, quand j'ai rencontré l'équipe, je leur disais tout le temps, franchement, j'adore vos films, mais s'il y a un truc que j'aime pas trop, c'est d'être capable de compter le nombre de feuilles qu'il y a dans les arbres ou le nombre de brins d'herbe. Enfin, moi, ça me. C'est dommage parce qu'on perd. Enfin, je trouve que même en cinéma live, un mec qui prend la caméra, il se démerde justement pour faire une toile, en fait. Enfin, tu vois, pour composer son image, pour que ça on le voit pas, que ça on, enfin, tu vois, que ce soit flou, que ça soit dans l'ombre, donc ça devient une masse en fait, c'est plus du tout des détails, l'herbe, on voit plus les brins d'herbe et tout ça. Donc là, c'était beaucoup là-dessus, j'essaie de leur donner beaucoup d'exemples. Ils ont fait un effort énorme justement pour avancer là-dessus, ils en avaient très envie, hein. C'était quelque chose dans le studio qui était très présent. Et du coup, on a pu travailler avec bah, notamment. Céline, la chef compo, et Thierry, qui s'occupait de la lumière, qui était très très avide de faire des recherches autour de ça. Et voilà, on a essayé de peindre l'image. À l'origine, on voulait être beaucoup plus ambitieux. Même nos premières recherches allaient vraiment dans des trucs encore plus matifiés, entre guillemets, enfin mat, moins de détails, plus des masses, des choses comme ça. Et on a montré l'image au producteur. En fait, il y avait deux images, une qui était un petit peu plus réaliste et l'autre. Et il revenait toujours à la deuxième. Enfin, tu sais, il a vu les deux, il a vu la première, il a fait super. Puis la deuxième, il s'est lancé dans un monologue de beauté, que c'était génial et tout. Donc, on a tous pris ça comme bon, on est peut-être qu'il préfère quand même quand c'est un petit peu plus réaliste et tout ça. Donc, et même, d'ailleurs, il y a un passage dans le film où après les hérons, en fait, ils sortent de la cabine des hérons. Et honnêtement, la scène au compo, c'était mais un tableau. On s'était inspiré d'un artiste qui s'appelle Thomas Alexander, enfin peintre hollandais, magnifique. C'est très 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 simple, à peine un peu à façon Gabriel Vincent justement, dans les couleurs très pastel. La séquence magnifique, on la montre au producteur qui, les larmes aux yeux, nous dit qu'on est en train de. Voilà, c'est super, je suis content de voir que le studio évolue dans ce sens-là. On fait vraiment un truc, il faut que tous les autres films prennent exemple sur ce genre d'initiative, faut qu'on aille là-dedans. Et en fait, 3 mois plus tard, il nous dit, non, mais en fait, il faut faire un beau ciel bleu, là, c'est trop. Il a eu
Il a eu
peur, en
peur,
fait,
quoi. Ouais, c'est ça,
au
trop de
niveau trop
changements.
artistique. Et bon, après, voilà, c'est son choix, et j'ai pas de regret vraiment là-dessus, parce que c'est pas. C'est de l'orgueil un peu d'artiste, tu vois, et c'est son film d'une certaine manière, donc j'ai pas envie de lui faire la morale là-dessus, mais voilà, donc on n'a pas pu aller jusqu'où on voulait aller,
Ah oui, ok.
mais c'était, il nous a quand même laissé un peu de marge par rapport à tout ça, et c'était super intéressant d'explorer autour de
C'est
ça,
marrant
quoi.
parce qu'en plus, il y a des scènes effectivement où il y a pas forcément le ciel bleu en fait. Et effectivement, il y a des passages où ça fait très tableau dans le cadrage et dans l'image. Et oui, alors ce qui m'a fait rire quand j'ai vu le héron, je me suis dit c'est le deuxième héron traumatisant de 2023. Il y avait lui et
Ah
celui
bah
de
oui, bah
Miyazaki.
oui, petite coïncidence.
Si, cet oiseau, il a pris cher cette année, c'était.
Moi, j'ai un amour pour les hérons qui dépasse l'entendement, et
Ouais.
j'ai un amour pour le personnage du héron dans le film
Allez,
Enfin,
ouais,
Migration.
super.
Je la trouve
C'est
extrêmement
très bien.
touchante, mais je sais ce qu'elle veut, donc c'est pour ça que je la trouve touchante. Mais c'est vrai que ouais, c'est une Miyazaki. J'ai entendu dire que ce serait une métaphore du producteur de Ghibli, ce héron
Oui,
de Suzuki.
Suzuki. En fait, ça va être
Il
trop
fait
drôle parce
beaucoup
qu'on le
rire.
dit. Je crois qu'on le dit à tous les épisodes du coup, parce qu'à chaque fois on y
Ah oui,
revient.
d'accord, ok, excuse-moi,
Non,
je
t'inquiète,
participe
t'inquiète.
alors à la.
Non, t'inquiète.
Non,
T'inquiète pas.
Non, mais en fait, ouais, non, j'allais rebondir dessus toujours parce que je trouve ça toujours très drôle parce que vraiment, Miyazaki tape sur Suzuki tout le temps et c'est vraiment terrible que ce soit avec un héros.
Bah ouais, à savoir, est-ce qu'il le mérite? Bonne question, j'en sais rien.
Ouais.
Il a l'air sympathique, ce monsieur. Du coup,
alors, moi, j'avais lu un bouquin. Je fais encore une aparté, je suis désolée. Au pire, ce sera coupé. Mais j'avais lu dans un bouquin que c'était Suzuki qui avait renommé Princesse Mononoke, et qu'au départ, ça devait s'appeler La Légende d'Ashitaka, ou alors le conte d'Ashitaka, du prince Ashitaka.
Ouais.
Et en fait, il a fait Suzuki, dans le dos de Miyazaki, a renommé le film, et Miyazaki était vraiment mais hors de lui, il était super énervé. Donc du coup,
il y a une petite vengeance.
Il y a une forme d'amour haine là.
Ah, ils ont vérifié cette information. Ils ont l'air d'être un peu le petit couple.
C'est ça. Ça fait des années qu'ils travaillent ensemble.
Oui, j'imagine. C'est souvent comme ça. Hein, de toute façon.
Est-ce que, vraiment question un peu rien à voir, mais donc tu as fait des courts-métrages, de la BD, des longs-métrages. Est-ce que par exemple le format de série pourrait te parler pour un projet à venir ou pas du tout
Je ne sais pas trop. En fait, le truc, c'est que quand j'ai fait La Poudrière, donc, qui était mon école d'animation,
ouais.
On a fait en deuxième année, non, en première année, on fait une formation justement pour créer de la série.
Mmh.
Et donc ils nous filent des livres, on choisit un livre pour enfants en gros. Et on travaille à comment on l'adapterait en série, quoi. Et en toute franchise, le problème que j'ai avec ça, c'est déjà ce qu'on nous apprenait à l'époque, ça a un petit peu changé. Mais en gros, il fallait trouver, le principe, c'est de trouver un concept qui était déclinable à l'infini, qui est pour moi quelque chose qui ne parle pas des masses, parce que c'est un peu, narrativement, moi j'aime bien le côté où tu commences, tu finis et tu es pris, enfin tu vois, tu as vécu quelque chose de fort, quoi. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que je n'apprécie pas regarder des séries, mais c'est pas trop ma manière de penser. J'aime bien quand j'ai fini quelque chose et que je peux passer à autre chose.
Oui, plutôt que les tirer en longueur aussi, il y a le risque. Enfin...
Ouais, c'est pas le même format, le côté infini, ouais. Enfin, moi j'aime bien, il y a une histoire qui me touche, et d'ailleurs, même dans les séries qui s'étirent en longueur, les Simpsons par exemple, j'aime bien certains épisodes qui me marquent énormément. Enfin, je les trouve particulièrement bien écrits, mais bon, donc ouais, la série, après, maintenant la série, ça a évolué vachement.
Oui.
C'est beaucoup plus feuilletonnant. En animation, malheureusement, c'est pas. Il y a que Toby Lolness, je crois.
Il y a Toby Lolness.
Je trouve être une épopée incroyable, mais malheureusement, j'avoue aussi que.
La Bergère guerrière, non, ça va être une série.
Ouais, Bergère et guerrière,
j'attends pas mal aussi. Ouais.
Mais à voir, hein, c'est mais pas sans production.
J'attends de voir parce que, après, il y a ce côté aussi où tu te dis, ouais, la vache, comment tu fais pour tenir l'énergie, en tant que réalisateur, pour tenir. Déjà que moi, je vois sur un 26 minutes, je suis au bout de ma vie, alors sur 10 fois 13, enfin. 13 fois une heure.
C'est pas la même dynamique aussi, mais
Ouais, t'es obligé. Vrai. En fait, t'es dans une logique où t'es obligé de sacrifier certains épisodes au profit d'autres et tout. Et moi, ça me rend fou, quoi. Enfin, donc je sais pas si j'aurais la capacité de faire ça. Après, si un jour je trouve une histoire où je veux faire plus que ça toute ma vie.
Ouais,
d'une certaine manière, James Cameron, est-ce que c'est pas ce qu'il fait avec Avatar, tu vois? Après, il voulait en faire
trois. Ouais, oui, c'est vrai.
Après, 5, je sais pas, c'est. Mais à voir, je ne suis pas contre, mais c'est pas. Le Grand Méchant Renard, on propose régulièrement d'en faire une série, mais moi, ça ne me parle pas du tout.
Ouais.
Parce que, simplement parce que je dis, pour moi, c'est fini. Enfin, je n'ai plus rien à raconter. Ouais, ils sont heureux. Et à chaque fois, je leur dis, par contre, ce que je veux bien faire, c'est faire une sorte de spin-off sur le loup. Et du coup, une fois, non, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, tant pis, quoi.
Non,
parce qu'à la base, dans Le Grand Méchant Renard, le loup, il est censé avoir des enfants. Alors, je les ai retirés du Grand Méchant Renard, mais dans les premières versions de l'histoire, il y avait les enfants du loup qui étaient présents eux aussi dans l'histoire. Et des petits louveteaux qui insistaient beaucoup pour jouer avec les enfants du renard.
Et puis ça doit lui changer tout le caractère du coup, parce que on
l'imagine
pas du tout avec côté paternel.
Justement, c'était c'est un peu pour ça que je les ai retirés, parce que c'est vrai que le côté paternel du loup, ça venait un peu en trop, mais et c'est pour ça que je dis, dans un spin-off du Grand Méchant Renard, découvrir cet aspect-là du loup, je trouve ça qui est un peu surprenant, et
clairement,
ça m'aurait fait marrer, mais ça intéresse pas trop les gens, donc
c'est vraiment dommage.
Écoutez, tant pis. Après, peut-être qu'un jour je le ferai en bloc, tu vois.
J'allais dire, du coup, la BD depuis Le Grand Méchant Renard, je sais pas si t'as repris la BD ou quoi. Est-ce que t'as des projets?
Je tâtonne un peu, je refais un petit peu à nouveau, d'essayer de faire un peu de BD. Je sais pas si ça se concrétisera, mais là, J'y retourne doucement là justement pour voir un peu ce que ça, enfin retrouver un peu le plaisir d'écrire
Ouais.
de manière très simple quoi. Ouais.
Ok.
Et juste un peu se reposer de la réelle parce que bon,
Oui, c'est aussi.
c'est ça.
Oui, c'est
Vu
un
que
peu
c'est pas
ça
du tout
aussi.
le même
C'est
métier, ça permet
drainant, mine de rien,
de
quoi.
switcher.
Ouais, c'est très
Et puis
drainant. Et
c'est.
puis là, t'es tout seul, tu fais un peu tes trucs dans ton
Ouais.
coin.
Sans
Ouais,
pression
c'est assez
aussi.
agréable. Et puis c'est plus. Moi, je dis toujours la BD, c'est beaucoup plus permissif par rapport à l'animation, dans le sens où les spectateurs sont beaucoup plus cléments avec la BD qu'avec l'animation.
Ouais.
L'animation, tu dois être beaucoup plus exigeant pour respecter le spectateur, parce qu'encore une fois, tu le prends en otage avec le temps. Enfin, tu vois,
Ouais,
il est là pour regarder ton truc. Une BD, c'est tout bête aussi, mais dès que tu en as un tout petit peu marre,
t'arrêtes.
bah,
Ouais,
tu
tu fermes, tu
passes les
reviens.
pages plus vite, ou même tu poses le livre, en fait, dès que
Ouais.
t'en as assez, quoi. Un film, encore une fois, c'est un investissement que tu demandes au spectateur, que tu demandes beaucoup moins au lecteur.
Ouais.
Donc, forcément, il y a une exigence de la part du spectateur de cinéma qui est beaucoup plus élevé, et donc tu dois être beaucoup plus attentif à le respecter, quoi. Je dis pas que les auteurs de BD ne respectent pas
Ouais, non, mais c'est super
respectent
intéressant
rien.
parce que
Mais...
c'est une question de rythme et de. Vu que c'est une autre forme de divertissement, du coup,
Ouais.
c'est complètement différent. Et donc, on a tendance beaucoup à passer la BD en animation. Et donc,
Ouais.
c'est quelque chose auquel. Enfin, on pense pas nécessairement de. Le fait que, vu que c'est pas du tout le même rythme, on peut pas se permettre de faire la même chose
Ouais.
ou en tout cas de
Ouais.
proposer la même chose parce que c'est pas la même recherche et
Ouais.
donc
Ouais, clairement. Ouais.
Et du coup, est-ce que tu as des projets pour la suite? Enfin, je suppose que oui, mais je sais pas si.
Bah, je peux pas trop t'en
Dormir.
parler malheureusement, mais là, ouais, bah, je te dis, en attendant que les choses prennent du rythme, là, moi, je suis en train de faire des petits trucs perso, tu vois. Hein, aucune idée de si ça se concrétisera de manière réel, mais là, vraiment, en mode, voilà,
Ouais,
j'explore. En fait, j'avais un
en
petit projet de BD que
animation,
j'avais
ouais.
mis de côté avant de faire Migration,
Ok.
et que du coup, bah, là, je reprends en voyant si j'arrive un peu plus à l'aboutir, quoi.
Ok.
Voilà. Ou bien, je
Est-ce
suis. Mais dormir, c'est beau comme projet, moi, je trouve.
C'est pas mal, ça.
On sous-estime ce projet bien trop souvent, moi.
Là, ça va, hein. Ça fait quand même 6 mois que j'ai terminé le film, donc ça
Oui.
va.
Et...
Un petit peu moins, mais voilà, donc ça va beaucoup mieux, quoi.
Tant mieux. Pas
Non, mais
parfait.
c'est très, très chouette, en tout cas. Très, très chouette expérience.
Bah,
Très bon
merci beaucoup.
podcast. Je souhaite
Merci beaucoup.
plein de bonheur pour la suite, hein, de continuer.
Ah,
Bah,
ouais.
merci beaucoup. Bah,
C'est trop gentil.
bon courage et
Ouais.
bonne continuation à toi pour tes projets, du coup.
Ouais, bah je ferai votre pub, en tout cas. Je vous parlerai
Oh, c'est
bientôt. Ouais,
gentil.
et puis,
C'est
voilà.
très
Bon.
gentil. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à
Bah
nos
non, merci à
questions.
vous. Bon courage, hein.
Ouais.
Bah, merci. Et puis.
Et puis, bah, j'allais dire, où est-ce qu'on peut te retrouver à ce moment-là? Je sais pas si tu as envie d'être retrouvé
Alors,
ou
je serai le
pas.
12 à Toulouse, le 25 à Paris.
Pas
Non, mais il n'y a
de puce
pas
spéciale
grand.
à...
Enfin, non, j'ai pas de. Bah, il y a Migration qui ne doit plus trop être en salle aujourd'hui. Je peux recommander, par contre, d'aller voir peut-être Sirocco, tu vois, des petits films
Ouais.
comme ça. Linda veut du poulet,
Ouais,
des
très très
très beaux
chouette.
films français qui n'ont pas. Moi, j'estime qu'ils n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient en salle.
Ouais.
Donc, voilà,
Si. Ouais, clairement.
si on peut encourager ce genre que les spectateurs voilà, dépassent un petit peu leur frayeur de la 2D
Leurs a priori,
Carrément.
ouais, clairement.
Parce qu'ils le regretteront vraiment pas, quoi. C'est surtout ça, en fait.
Ouais. Ouais.
Des fois, on n'y va pas en se disant, oh, ça ne me branche pas. Puis tu vois le film et t'es là, tu fais, putain, je me suis jamais autant marré de ma vie.
Ouais.
Donc,
Ouais,
puis
clairement.
surtout, voilà, ces deux films, je trouve qu'ils sont. Des gens cherchent un spectacle léger dans lequel ils n'ont aucun regret, je trouve que c'est parfait,
Oui,
quoi.
c'est pas des films compliqués à
Mais
voir ou quoi
ouais.
que ce soit, ouais, clairement.
Ouais, au contraire, ouais, c'est vraiment de la petite comédie touchante dans deux genres très différents. Donc voilà, je les encourage à aller voir ça et puis de continuer à découvrir plein de les BD, la merveilleuse production francophone
Grave.
européenne
Ouais.
en bande dessinée, en animation. Il y a que des bonnes choses, donc je vais continuer à friller
Clairement.
là-dedans,
C'est
quoi.
vrai.
Et
La French
toutes bonnes
Touch.
surprises.
Et ben
Ouais.
encore.
Enfin, ouais, moi je dis toujours la European Touch parce que.
C'est vrai, parce
Oui,
que
c'est
bon,
vrai que c'est
tout
un peu
partout.
de
Yeah.
mix. Bah,
Ouais,
encore merci à toi. Et
on.
puis, nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.
Yes.
Pareil, bah, les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, Instagram, et vous connaissez les plateformes audio. Mais voilà, si vous nous écoutez, c'est que vous nous avez trouvés.
Bisous.
Et puis, bah, à plus. Et puis, gros bisous. Bisous.
Bisous.